Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité.
Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi.
Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains.
Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs.
L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés.
On appelle ça l'altruisme intéressé.
Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 17. Je procède au rappel traditionnel de cette émission. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous contacter à notre adresse email Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous faire des dons en crypto-monnaie, exclusivement Monero, c'est la crypto-monnaie qu'on utilise. Il y a un guide explicatif, si vous n'êtes pas familier des crypto-monnaies, qui se trouve sur le site démocratieparticipative.me. À droite, voilà, vous aurez les explications générales sur l'utilisation de cette crypto-monnaie. C'est finalement assez simple, il faut juste consacrer un tout petit peu de temps et ça vient tout seul. J'en profite pour citer les donateurs qui ont bien voulu nous soutenir et se manifester auprès de nous. Je commence avec Mélas Autocrator, que nos auditeurs doivent connaître maintenant, puisqu'on le cite de temps en temps, c'est un donateur régulier. Il nous dit encore merci pour l'ouverture du forum qui se révèle particulièrement participatif. Merci à toi, cher Mélas Autocrator. Don numéro 2, c'est Stoker Team, qui nous fait un don de 50 euros. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message particulier, et il a aussi rejoint le forum, nous disait-il. Donc, alors, comment dire, avant de présenter les membres de cette émission, je dirais que, en ce qui concerne le forum, une restructuration a été faite par le staff, donc il devrait être plus clair, normalement, la discussion est beaucoup plus encadrée, nos auditeurs peuvent en prendre connaissance par eux-mêmes, si ce n'est déjà fait. J'en profite pour inviter tous nos auditeurs qui le souhaitent à s'inscrire, pas nécessairement pour participer, mais peut-être pour lire les échanges. Et aussi, dans la nouvelle configuration du forum, vous trouvez dans la partie médias le moyen pour ceux qui sont des archivistes de poster vos archives. Ça peut être des PDF, ça peut être des vidéos, ça peut être des coupures de presse, etc. N'hésitez pas à utiliser cette section, elle est faite pour cela, elle est faite pour offrir aux autres, à ceux qui ne connaissent pas tel ou tel contenu, un accès à ce contenu. Donc ne gardez pas vos précieuses archives pour vous, partagez-les, et nous avons des gens qui participent activement. Je tiens quand même à saluer ici, parmi tous les membres, je salue tous ceux qui sont inscrits, qui participent, qui font vivre le forum, mais un ami qu'elle salue, à René Fayard, qui est particulièrement assidu et qui justement...
Je crois que c'est le premier, hein, c'est le premier utilisateur.
C'est un des premiers de toute façon, et enfin, quelqu'un qui a...
Un des plus prolifiques.
Oui, et puis surtout qui donne des données, des sources, etc. Donc n'hésitez pas. Et il y a aussi une section dans la discussion générale, une section révisionnisme et histoire, mais révisionnisme historique. Donc si vous êtes versé dans ces choses-là et que vous voulez communiquer sur cette question vers un public qui peut-être n'est pas versé dans ces questions, n'hésitez pas. Même si bien évidemment des gens comme Vincent Renoir font un travail extraordinaire sur la question, un travail très exhaustif, mais bon, on peut toujours voilà, en débattre. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc ce forum est fait pour vous. Et, comment dirais-je, je vous invite tous à y participer et à tout le moins à le lire. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Alors, comme vous l'avez entendu, je vais commencer par lui. J'allais présenter les membres de notre émission, mais je commence avec Derek. Salut Derek, comment vas-tu ?
Oui, écoute, salut Gandalf, je vais très bien. Je me fais petit à petit cette vie tronquée qui est la vie confinée.
Qui va peut-être bientôt toucher à sa fin quand même, enfin du moins partiellement, oui, c'est pas trop, on ne sait pas.
Deux semaines, j'attends avec impatience d'aller galoper dans la montagne adorée.
D'accord. Alors nous allons, je vais présenter maintenant Pierrot, qui est aussi avec nous cette semaine. Salut Pierrot, j'espère qu'il va bien Pierrot.
Salut Gandalf, salut tout le monde. Oui écoute, ça va, mais on se fait toujours un petit peu chier. Hein. Heureusement qu'il y a le forum quand même pour lire quelques petites... Petit truc sympa, voilà, ça détend.
Ouais, c'est pas mal, on est à plus de 1200 membres en 3 semaines, je crois. Bon, la quantité n'est pas le seul critère, hein. La qualité est le plus important, mais c'est pas mal. Je veux dire, 1200 participants, c'est pas mal, en espérant que ça grossisse au fur et à mesure du temps, bien sûr, mais... Et il y en a beaucoup plus qui lisent, mais qui ne s'inscrivent pas, d'ailleurs. Beaucoup plus, 3 fois plus environ. Donc, c'est bien, c'est un outil... De démocratie participative, ça c'est de la vraie démocratie participative. J'enchaîne avec MacDav qui nous fait le plaisir de participer aussi, il est souvent avec nous. Salut MacDav.
Salut à toi Gandalf, salut à tous tes amis.
Avec sa voix de crooner. Fulbert est avec nous cette semaine, comment dirais-je, peut-être s'est-il remis de l'anniversaire du Führer, je veux le croire. Comment vas-tu cher Fulbert, la forme?
Ah, Fulbert va bien, rien à dire, bonjour Gandalf, bonjour à tous.
RAS comme on dit.
RAS.
Enfin est avec nous aussi cette semaine, Alexis, on est content de l'avoir, hein. C'est un petit peu le sage de l'émission, très calme mais incisif ceci étant dit Alexis, comment vas-tu?
Salut, tu me fais trop d'honneur, salut à tout le monde.
Mais non, pas du tout, c'est mérité. Alors, on va commencer avec la rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Alors je commence avec le premier courrier de la semaine, qui est un courrier à caractère affectif en quelque sorte, qui a trait au rapport aux femmes en général, et c'est un jeune homme qui va nous parler de son expérience avec la gente féminine. Je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs va se reconnaître dans ce que nous dit ce jeune homme. Donc je partage avec vous et avec nos auditeurs ce qu'il nous dit. Chers amis démocrates participatifs, bonjour. J'ai 26 ans et je vis dans le sud de la France. Je souhaite vous faire partager mon expérience concernant le genre féminin. Depuis toujours, je rêvais de trouver une femme gentille, agréable, vierge si possible, qui soit toujours à mes côtés, dans le meilleur comme dans le pire. Je vous laisse deviner que les décennies de féminisme débridé à la sauce Veil ont rendu de telles exigences aujourd'hui impossibles. Les désastreuses conséquences de mai 68 ont perverti des générations entières gavées de torchons tels Télérama, Cosmopolitan, Femina, Marie-Claire, Cosette et j'en passe, qui ont considérablement réduit le niveau de matière grise de la gente féminine. Mes relations chaotiques me l'ont bien fait comprendre. Les filles, donc, entre guillemets, superficielles, les alcooliques, les mouches de boîte de nuit, et j'en passe. Je souhaite vous présenter les pépites auxquelles j'ai eu le droit. Vers mes débuts, j'ai rencontré une belle blonde originaire du Nord. Tout se passait pour le mieux, elle avait une maison en Suisse, et n'ayant jamais visité ce beau pays, je lui ai suggéré de passer quelques jours en amoureux là-bas. Elle m'a dit oui, d'un air gêné, n'y prêtant pas attention, et alors qu'elle se trouvait là-bas, je lui suggère à nouveau, par message. Et là, surprise. Elle m'avoue avoir des enfants, et vivre avec le père de famille dans cette maison située à Genève. À son retour en France, je lui demande de plus amples explications, et elle me jure qu'elle ne l'aime plus, et passe la soirée à se mettre minable dans un bar de quartier. La relation s'est bien sûr terminée. Une relation plus récente a été une assistante sociale. Gauchiste, bien sûr, au dernier degré, persuadée d'être juive et voulant se convertir. Cela m'a beaucoup fait rire et j'ai relativisé en me disant que la masse féminine était de toute façon stupide et qu'elle avait peut-être d'autres qualités. Mais hormis le fait que cette grognasse de 28 ans était judéo-servile, elle avait un caractère de merde sous prétexte que madame avait, je cite, « du vécu ». C'était donc à moi de payer les coups tordus de ses ex-copains. Le problème, c'est que je ne suis pas du genre à dissimuler mes convictions ni à me laisser faire. Et avec mes multiples engueulades, avec cette fabuleuse connasse hors norme, notre relation s'est rapidement terminée. Je lui dis tout le bien que je pensais des baptisés au sécateur et de sa profession de gauchiste crasseuse. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. La cerise sur le gâteau. Une relation de quelques jours, où j'ai eu le droit à une illuminée un peu plus âgée que moi, membre de la secte pseudo-bouddhiste Nam Myoho Renge-kyo. Je découvre, hein. Alors que je dormais avec elle, son téléphone sonne en pleine nuit. Elle se lève brutalement et répond par SMS. De là, voyant que j'étais réveillé, elle me dit de me rendormir et qu'elle va s'absenter environ 2 heures. Elle me passe un petit papier avec un numéro de téléphone et me dit d'appeler ce numéro si elle ne répond plus au téléphone après les 2 heures, donc mentionnées. Étonné, surpris, je commence à me poser des questions. Et au final, elle revient toute fraîche et en avance. Je lui demande des explications et là, ce que j'avais imaginé s'avère être vrai. Cette traînée intergalactique m'avoue faire des passes en collaboration avec une prostituée russe. En me sortant à la fin, j'espère que cela ne te dérange pas, chérie. Débordant de curiosité, je rentre dans son jeu pour en savoir un peu plus. Et là, la surprise valait effectivement la chandelle. Donc, adepte de libertinage et de partie fine organisée, ce nid bisexuel de MST me déclare, au bout de quelques minutes, fièrement et sans complexe, « Même en couple, je ne peux pas me contenter que d'une seule... » Vous avez compris de quoi je veux parler, de quel organe il s'agit. C'est pour cela que je joins l'utile à l'agréable. Vous imaginez bien que j'ai de suite coupé court cette relation beaucoup trop progressiste pour moi. Je ne suis pas un défaitiste et malgré ce conglomérat féminin de bêtises et d'ignorance, je me suis toujours dit que je finirais par trouver la bonne. Des femmes, ce n'est pas ce qui manque. Et même si cela est difficile, il faut relativiser. La majorité des femmes d'aujourd'hui ne méritent pas notre respect, et les hommes qui se soumettent à elles, encore moins. Certains nationalistes ont et ont eu les mêmes problèmes concernant le sexe féminin. J'ai bien évidemment des désirs brûlants de charia blanche, qui sera ni plus ni moins que le retour à une société patriarcale et traditionnelle débarrassée de ce genre de tradasse féministe et décadente. Sa mise en place nécessite un travail sur soi et l'interdiction de se soumettre au sexe opposé. Pourriez-vous, chers amis démocrates participatifs, m'en dire plus sur ce terme évocateur, dont je suis un fervent adepte, donc la charia blanche. Et c'est signé « Un soldat du patriarcat au service de notre idéal ». Veuillez agréer, messieurs, l'expression de mes sincères salutations racistes, antisémites, antiféministes et participatives. Alors messieurs, voilà, je vous dis, hein, enfin, je sais pas si je souhaite pas à tous nos auditeurs d'avoir expérimenté ce que notre auditeur a expérimenté, mais bon, il est passé un petit peu par toutes les palettes de la femme, on va dire, progressiste, effectivement, hein, donc de l'assistante sociale, la nana appartenant à une secte qui fait plus ou moins des passes, mais c'est peut-être pas tellement des passes, c'est peut-être plus récréatif, la nana qui couche à droite et à gauche, mais qui en fait a un gazier avec des gamins, bon. Voilà, on a eu un petit aperçu. Bon, c'est quand même assez banal, finalement. C'est ça qui est triste, c'est assez banal.
Banal.
Dans l'histoire de la secte, oui, non, peut-être pas, oui. Non,
ouais, là, si, il y a plein de gonzesses qui s'inventent des pseudo-spiritualités, et ça, c'est très courant. Oui. Par contre, même moi, qui ai bien baroudé la gueuse, je ne suis jamais été confronté à des cas aussi extrêmes.
Ah bah alors, du coup, MacDav, sur les 3 candidates que nous a présenté l'auditeur, laquelle te paraît le plus extrême par ordre de grandeur? Ça m'intéresse.
L'histoire de la prostituée cachée,
c'est pas mal, quand même.
C'est très très extrême et ça devait voir sur sa gueule. Alors, les nanas adeptes de spiritualité New Age, c'est très commun, c'est même plus que commun. D'ailleurs, plus la religion officielle a disparu, plus les nanas se reconvertissent dans des spiritualités douteuses, pseudo-bouddhistes, New Age.
Ouais.
Ça, il faut voir ce que c'est. Donc généralement, quand tu rentres chez une nana qui a des attrape-rêves accrochées au mur et que ça sent le patchouli, bon, faut te douter de quelque chose. Après, bon, ça reste tellement commun que ça ne veut pas forcément dire quelque chose.
Ouais, c'est pas forcément les pires, hein, McDavid, je pense.
Non, non, c'est même loin
Ah bah
d'être les
celle-là
pires.
est pas mal quand même, je veux dire.
Non, non, mais attends, attends. L'histoire de te lever alors que
Ouais.
tu dors avec un homme pour aller rejoindre une pute russe et pour faire une passe. Excuse-moi,
Ouais,
enfin,
c'est... Ah oui, là, c'est costaud,
là.
effectivement.
Là, t'aurais quand même dû te douter de quelque chose. Je veux dire, généralement, une pute, ça se voit sur sa gueule. Et ça se voit.
Bah, j'ai un
Là,
peu
bon, là, c'est.
l'impression que c'était plus récréatif, hein. Peut-être
Ah
monnayé, mais
bah,
récréatif, là, visiblement.
c'est très, très récréatif. Est-ce que t'es sûr que ça n'a pas été monnayé? Peut-être que ça a été
Ah,
monnayé
moi je
avant
pense que ça a
l'insulte.
été monnayé, moi je pense que c'était monnayé, mais on le saura pas, mais je pense que oui, je pense, oui. Ce que je veux dire, c'est que
Et avouer les choses.
autant la prostituée russe a fait probablement ça dans un but alimentaire, autant visiblement de l'aveu même de la femme en question
Oui,
ici,
elle l'a fait pour émancipation. Oui.
ouais, elle dit je joins l'utile à l'agréable, elle dit. Bon, ça veut tout dire, quoi, c'est-à-dire que c'est.
Bah, le fantasme de la passe, c'est un fantasme féminin. Ça, c'est vrai. Il y a plein de femmes qui, généralement sur le tard, avouent le fantasme de la pute. Et ça peut se retrouver dans des jeux de rôle.
Ah
Bon,
tiens.
ça, c'est une chose. Par contre, je suis désolé, mais même une pute, si tu la payes pour une nuit, je pense pas qu'elle va se lever pour aller voir un autre client. Donc, bon. À moins qu'elle t'ait considéré comme un éventuel souteneur, ça me semble quand même extrêmement bizarre, cette histoire.
Le fait de l'avouer comme ça aussi, c'est un peu bizarre. Enfin, de pas chercher à dissimuler du tout. Elle aurait pu dire non, non, j'ai une urgence, je t'expliquerai plus tard.
Ouais. Il n'y a plus vraiment besoin maintenant de se cacher, puisque il n'y a plus de cadre moral bien établi. Donc,
Bah oui,
qu'elle aille
après.
se faire tringler par des étrangers en échange de deniers, ça n'est pas quelque chose dont il faut être honteux dans la civilisation occidentaliste du 21e siècle. C'est même quelque chose dont il faut se gosser, hein, gossons-en nous, et nous sommes supérieurs parce que nous faisons payer pour nous prendre des trucs dans le fion. C'est particulier.
Il a dit quelque chose là, notre auditeur, comme quoi les nationalistes galéraient avec les femmes. Non, c'est pas uniquement les
Non,
nationalistes,
c'est
c'est
les hommes
faux.
en général,
C'est
hein.
les hommes en général. Il faut arrêter avec ce mythe. C'est pas les nationalistes. Il y a effectivement dans à peu près tous les milieux politiques et surtout à droite, dans les milieux militants, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça, c'est une réalité. Mais tous les militants nationalistes déclarés que je connais ont des femmes qui ne sont pas des femmes très politisées, ou alors elles se sont politisées à leur contact. Donc il faut arrêter avec cette légende. C'est globalement la plupart des hommes qui s'en retrouvent un peu sidérés face au
Bah, y a
comportement
une misère
délibéré des femmes.
sexuelle, c'est la misère sexuelle ambiante qui existe en France, ou comment dire, et qui donc effectivement qui est pas limitée à un milieu politique, d'autant qu'on peut pas dire non plus que les rangs des nationalistes soient si garnis que qu'on ait vraiment des échantillons très représentatifs. Mais non, ce que l'on voit ici, bon, dans ce que nous dit notre auditeur, déjà, c'est que c'est quelqu'un qui cherche une compagne. Alors certains pourront dire, ah ouais, mais quand même, il fait pas preuve de discernement, etc. Mais le problème, c'est que vous êtes toujours un petit peu pris entre, j'allais dire, entre deux feux, parce que d'une part, il faut bien quand même entamer une relation avec quelqu'un pour que ça ne reste pas de l'ordre du théorique, hein, bien sûr. Donc, on peut pas demander le CV d'une femme comme ça lors d'une première rencontre ou même d'une deuxième rencontre, c'est-à-dire que la
Non, non,
femme.
mais il faut même éviter. Parce que déjà, une femme
Ah oui, ça, tu dis que ce
te
serait décourageant.
mentira.
Oui, c'est pas faux.
Déjà, elle va sentir chez toi une forme d'insécurité si tu lui demandes.
Ah oui, c'est oui, de toute
C'est
façon.
très clair. Moi, si tu demandes ça à une femme, elle va sentir ça comme un sentiment d'insécurité.
Disons qu'il
Il
y a un
faut
truc qui.
éviter de le faire. Et deuxième point, elle te mentira.
Oui,
Même
ça c'est
une
certain.
femme, bien, une femme te mentira.
Bien
Parce
sûr, bien
que,
sûr.
je veux
Alors,
dire,
il
c'est
faut.
tellement facile de. Comment dire,
Bien
de
sûr.
faire tourner le compteur en 2020
Bien sûr.
Ça ne veut rien dire, en fait.
Tout à fait.
Il faut effectivement ne pas lui demander. En revanche, il faut faire en sorte d'être au courant de...
Ouais, mais c'est très difficile. C'est très difficile.
C'est difficile, mais il faut quand même essayer de se faire l'idée, parce que sinon, tu vas au-devant de grandes déconvenues. Avec des nanas qui, pour le coup, ont un passé... Et pas comme passé, hein, peut-être, parce que...
Tu peux parler de passif. Hein.
Oui, on peut en parler. Mais...
Au sens comptable.
Au sens comptable. Là, par exemple, notre auditeur, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il est allé dans des coins où tu avais des nanas un peu New Age. Les nanas un peu New Age, c'est pas forcément le truc le plus... le plus improbable que tu peux aller prendre. Au contraire, c'est-à-dire que c'est là qui peuvent avoir une certaine conscience... par rapport à leur alimentation, etc. Ça peut être pas mal, hein, même si au niveau politique, bon, les femmes au niveau politique, ça reste de gauche quand même. Hein. Moi, je suis assez en accord avec cette démarche-là qu'a fait notre auditeur, mais pour le coup, c'est vrai qu'il n'a pas eu le bol, il est tombé sur une espèce de harpie qui...
Ouais, non, nymphomane, il est tombé sur une
nymphomane. Qui se lève la nuit pour aller faire des passes avec une prostituée voilà, russe. Donc, ben, ouais. Je voudrais pas généraliser, mais je pense pas que ce soit la généralité dans ces coins-là.
Non.
Et si je devais conseiller, d'ailleurs, à certains de nos auditeurs... qui sont dans une optique d'un petit peu se changer la vie, qui sont dans des zones urbaines, etc., ben ça serait justement d'aller se mettre dans ce type de groupe-là. Des randonnées, des trucs de yoga, machin, truc, où tu vas avoir pas mal de nanas qui sont un petit peu...
Non, c'est les clubs de danse où là, c'est la folie. Là.
Ouais, non, le club de danse, c'est très pute, quand même. Si tu veux avoir...
Et beaucoup d'homosexuels aussi, hein.
Non, mais t'es pas censé démarcher les hommes, tu le sais bien.
Oui, voilà, non, les clubs de danse, c'est vraiment, si biologiquement, t'en peux plus. Quoi. Mais si tu veux te trouver une nana potable...
Peut-être pas que. T'as peut-être des cadres, je veux dire, cadres moyennes, quoi, qui se font chier parce que, voilà, ils ont des hobbies. Alors, le hobby de la danse, en fait. Alors, choisissez bien votre type de danse.
Ben, je préfère une nana qui a des hobbies. Hein, voilà. Je préfère, ouais, ben, malheureusement, c'est ça. Je préfère une nana qui a des hobbies d'aller faire des randonnées en montagne qu'une nana qui a des hobbies de faire du macumba.
Je suis d'accord avec toi.
Avec des coachs brésiliens.
Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème. Mais là,
chers amis, si vous cherchez une nana, là, essayez de
il ne t'a pas échappé, cher Derek.
Dans des centres d'intérêt un petit peu intéressant.
Il ne t'a pas échappé, cher Derek, que la France n'est pas intégralement recouverte de montagnes. Que tous les Français ne peuvent
non,
pas...
Non, mais tu as des forêts, quand même, un petit peu. Enfin, je sais pas, la France, bon...
Je suis pas certain que la technique de drague dans la de forêt, squatter les forêts soit super efficace, quoi.
Donc, je pense que le club de danse est plus porteur.
Tant pis pour vous.
C'est plus porteur.
Non, je pense pas.
Je pense que si. Et donc, j'invite nos auditeurs à réfléchir à ce type, effectivement, de cercles sociaux où vous pourrez fréquenter un... Parce que le but, en fait, pourquoi dans des cercles de danse, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes. C'est ça le but, c'est d'avoir beaucoup de femmes autour de vous. Si vous restez dans des milieux où il y a peu de femmes autour de vous, par définition, logique élémentaire, les possibilités de rencontre s'amenuisent d'autant. Donc si vous passez votre vie, bon, vous allez me dire, je prêche un petit peu contre notre chapelle, mais si vous passez votre vie à militer politiquement, sauf si peut-être vous avez la chance de trouver une fille qui est aussi militante, etc., auquel cas, ben, c'est très bien, c'est formidable. Mais si vous restez dans des milieux qui sont quand même très masculins, vous rencontrerez finalement assez peu, et vous aurez en tout cas assez peu d'opportunités pour trouver une compagne. Si vous allez dans des cercles sociaux, qui peuvent être d'ailleurs très variés, hein, je veux dire, c'est pas... Je parlais de la danse, mais il y en a d'autres. L'idée, c'est d'avoir beaucoup de femmes autour de vous, et pour pouvoir voilà, fréquenter, essayer de voir qui c'est qui vous correspond, est-ce qu'il y a une alchimie qui se crée, voilà. Donc, je pense que déjà, ça passe par là, quoi. Et comme il y a beaucoup de nos gens... et plus généralement de jeunes gens qui traînent entre mecs, vous savez, les bandes de mecs. Mais les bandes de mecs, ça attire pas nécessairement tout le temps les filles non plus, vous voyez. C'est-à-dire que...
Ça les repousse, au contraire.
Bah ouais, bon, surtout en soirée, quoi, ça fait un peu troupeau, bon, les filles sont pas tellement dans cette approche, elles sont peut-être plus rassurées s'il y a, on va dire, deux hommes qui viennent à la rencontre de deux femmes, par exemple, elles sont pas toutes seules, elles ont leurs copines, voilà, il y a une discussion... Bon, vous voyez, il faut aussi savoir trouver les lieux où on peut... trouver, enfin nouer un contact, quoi. Et beaucoup de jeunes hommes, bon bah ils sont en groupe, ils veulent s'éclater avec les copains, ils s'amusent, mais en même temps en soirée ils ont quand même bien envie de trouver une nana, une copine, même une petite amie tout simplement. Et c'est difficile pendant très longtemps, vous savez, c'est la boîte de nuit. Je sais pas si c'est encore tellement le cas, mais c'était. Et en fait, c'est y a pas plus stupide que d'essayer de draguer en boîte de nuit. C'est pas là où ça se passe.
C'est débile.
Voilà.
De concurrence.
Déjà et puis.
Non, mais même déjà, même, non, mais déjà le matériel est.
Voilà, c'est pas super.
C'est de la merde. Super.
Mais voilà, donc je pense qu'il faut déjà prendre le problème par ce biais-là, c'est-à-dire aller là où il y a beaucoup de femmes.
Oui, enfin bon, il faut expérimenter pour comprendre.
Oui.
Bon, quelque part, c'est en faisant ce type d'erreur que tu vas te forger ton caractère. Hein. C'est pas vraiment, c'est beaucoup d'hommes passent par là et j'ai peut-être même envie de te dire que maintenant c'est un peu. C'est un peu le sas obligatoire pour tout le monde.
Ben c'est un peu le problème. Alors là, il y a un autre truc, mais qui est un phénomène qui est connu. Je veux dire, c'est les femmes. Mais ça, c'est un phénomène psychologiquement étudié. Je veux dire, c'est pas moi qui sors ça de ma manche. Hein. Ça a été étudié. C'est-à-dire que les femmes en fait, on est fait biologiquement pour. Nous sommes faits pour nous marier biologiquement avec la première personne avec laquelle nous avons une relation sexuelle. Donc, toute relation au-delà de la première relation sexuelle, l'attachement diminue. En fait, il y a une accoutumance, en fait, à la séparation, si vous voulez. Ça se passe dans le niveau inconscient, bien sûr. Donc, les femmes, si vous voulez, plus elles ont de partenaires, bah, plus elles peuvent en changer facilement. Donc, quand on dit combien de mecs ont-elles eu, c'est un peu la question qui se pose, c'est-à-dire, c'est pas tellement. Bon, je passe sur les la virginité, etc. L'idée, c'est est-ce que je peux m'engager vraiment ou est-ce que non, ça va casser pour une connerie. Si cette femme a eu 3, 4, 5, 6, 7 partenaires avant vous, il y a une forte probabilité que ça casse. Ça peut casser au bout de 3 ans, au bout de 8 ans, vous savez jamais vraiment, mais il y a une beaucoup plus grande fragilité du lien. Et c'est pourquoi, en fait, le mariage traditionnel. Et je le découple du caractère religieux d'ailleurs, le mariage traditionnel, c'est-à-dire un homme, une femme pour la vie, si possible avec la virginité lors de la nuit nuptiale, vous me comprenez, c'est ce qui fait durer les unions. Donc en fait, dans tout ce qui a été diabolisé dans le patriarcat, les gens ont dit que c'était un caractère religieux, c'était en fait le fruit de l'empirisme. C'était l'expérience de siècles et de siècles de pratiques.
Ce qui est même délirant, c'est que le mariage chrétien,
oui.
il a protégé les femmes.
En plus, mais oui, au plan patrimonial, tout à fait.
Exact. Non, mais même du point de vue purement symbolique, le mariage chrétien, catholique, a protégé les femmes comme jamais. Bien plus que le mariage romain, où le mari avait plus ou moins droit
ouais,
de mort,
ouais.
Ou le mariage germanique qui en fait était qui pouvait être polygame, donc ça.
Oui, enfin le mariage germanique polygame, enfin bon, il était quand même très connu que les Germains avaient pour pratique d'avoir une seule femme dans leur vie.
Ça dépend lesquels.
Non, mais t'as toujours des exceptions, bien sûr, mais enfin, c'était quand même.
En majorité, ils étaient monogames.
Ouais, il y avait des auteurs grecs ou. Enfin, j'ai lu des auteurs latins qui. Voyageant et donc constatant, vous savez, faisant un peu de l'ethnologie avant l'heure, notaient, d'ailleurs, avec beaucoup d'intérêt, ils disaient, ah tiens, chez les Germains, il est quand même de bon ton de garder la même compagne toute sa vie, c'est quelque chose qui est très valorisé là-bas, etc. Donc la fidélité dans le mariage, si vous voulez. Comment dirais-je, préexiste à l'avènement du christianisme en Europe, hein, c'est clair. Mais je veux dire, c'était d'abord le fruit de l'expérience, tout simplement. C'est des unions qui durent plus, et tout le monde s'y retrouve en fait. Alors que les femmes, et là j'en termine, mais finalement les femmes, qui veulent qui cèdent un petit peu à leur attirance, etc., donc qui disent, ah, tiens, celui-là, finalement il m'emmerde, allez j'en change, etc. Arrivées au bout du 7e ou du 8e, elles sont pas plus heureuses. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas le bonheur au bout du chemin en fait. Ah il y a constamment le mécontentement et la frustration. Et c'est ça qu'il faut souligner en fait, c'est-à-dire que dans ces unions qui se font et qui se défont, il y a une très grande insatisfaction de part et d'autre. Et je crois que c'est le grand problème de l'époque. Et ensuite, bah, comme légalement c'est permis, hein, parce qu'il n'y a plus d'interdit de principe, vous le savez, bah finalement les gens ils bricolent. Alors bon, ils essayent de... Ils se séparent, alors ils ont eu un gosse avec une nana, ils se remettent avec une autre femme qui elle-même s'est séparée, alors ils essayent quand même de recréer un petit semblant d'unité, ouais, c'est quand même pas simple.
Ils sont sous le même toit, ils sont sous le même toit avec des enfants à eux, des enfants pas à eux, enfin,
ça c'est pas
très
bon.
Sale hein, comme histoire.
Ouais, c'est pas bon, et surtout pour les enfants, non, ça c'est le plus important. Parce que c'est très important, la figure du père. Il ne faut pas s'étonner qu'on sombre dans des sociétés de gauchistes finies. Pourquoi ? Et ça, le système le sait.
On, hein, on est dans le système de
matriarcal,
de parentalité. On est, oui, de, c'est un matriarcal, le système dit caribéen, qui est en fait le système nègre.
Ouais, hein, ouais, c'est-à-dire que on a
des gens qui baisent n'importe comment, des femmes avec des enfants dont le père est incertain, et qui vont se caler avec un autre type qui a lui aussi des gosses qu'il a attrapés de droite à gauche, on ne sait pas d'où. Et, ouais. ça reste là quelques mois, quelques années, puis ça se défait, ça va à droite à gauche. Enfin, c'est sale, hein, c'est très sale comme histoire. Hein. C'est, moi, enfin, bon, j'espère que... Bon, il y a peut-être des auditeurs à nous qui ont vécu ça. Moi, je suis heureux de ne pas l'avoir vécu. Je pense que personne ne l'a vécu parmi nous. Mais bon Dieu, quelle saloperie, quoi. Quelle saloperie.
Le pire, comme je voulais dire, c'est pour les enfants. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas avoir une société stable si vous n'avez pas de famille stable. Ça, c'est clair. Si le père est une figure changeante pour un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous voyez, il y a un père qui rentre, un père qui sort, ou il y a un père par intermittence. Vous voyez, il y a un père qui visite tous les 15 jours, et puis le reste de la semaine, c'est le concubin de la mère. Dans l'esprit du gosse, surtout du jeune garçon, mais même de la fille, c'est quoi la figure du père ? L'autorité, la verticalité, elle est où ? Elle est changeante, elle est fluctuante, elle n'est pas certaine. Donc ça sème la confusion, ça sème le doute. Ça dévalorise aussi la figure paternelle, quoi. Donc en fait, la fille aura... Alors je ne dis pas que c'est une loi des reins. Vous avez des gens qui sont des enfants de familles recomposées, qui sont très heureux, ils ont trouvé la personne qui leur convenait, ils ont formé une famille, c'est très bien, moi j'en suis content. Mais je veux dire, ça contribue quand même énormément à la déstabilisation psychologique des enfants. Et il y a beaucoup de gens, surtout, je l'observe, hein, y a beaucoup de gens qui parlent de ça avec beaucoup de facilité, en revendiquant des droits, enfin, souvent avec des arguments à caractère libertaire, mais qui font complètement fi du bien des gosses. C'est totalement secondaire, quoi, ils s'en fichent.
Oui, non, mais c'est même très fréquent, parce que t'as plein de magazines féminins qui disent « si vous n'êtes pas heureuse en couple, alors vos enfants ne seront pas heureux. » Enfin, si tu veux, c'est fréquent en fait. C'est mon épanouissement personnel est indispensable à l'épanouissement de mes enfants. Ce qui est juste, c'est du nombrilisme. Et tu parlais de patriarcat. Notre auditeur se revendique comme un soldat du patriarcat. Le patriarcat, je suis désolé, dans notre société, il est mort. C'est la figure du père. Hein, c'est surtout ça, le patriarcat. Plus la figure du père est, aujourd'hui, elle n'est même plus désacralisée, elle est ridiculisée en permanence à travers la pub. Plus les femmes, l'accusent, alors qu'il n'a plus aucun pouvoir. Mais le patriarcat, c'est pas le virilisme, c'est pas le masculinisme, c'est la figure du père responsable. Rien à voir avec cette oui. espèce de simulacre ridicule que tu vois sur internet avec toutes ces histoires.
Oui, le travestissement.
Voilà, ça n'a rien à voir.
Ouais, tu as dit aussi l'épanouissement. Alors souvent, cet épanouissement, il est en fait, c'est caprice en fait. Hein. Donc, épanouissement, c'est vrai que ça peut être intéressant d'être épanoui sur le plan personnel. Mais... Il ne faut pas confondre ce qui est passager, ce qui est de l'ordre de la passion amoureuse et ce qui est de l'ordre de l'épanouissement. D'ailleurs, les mariages chrétiens traditionnels, c'était en partie des mariages de raison. C'est-à-dire que les familles avaient leur mot à dire et les parents se mettaient parfois d'accord entre eux pour faire en sorte qu'il y ait le mariage. Et donc l'amour ne venait qu'en second lieu. Hein. Il venait plus tard dans le temps. Quoi.
C'est-à-dire, et parfois, il venait. Parfois, il venait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il venait même beaucoup plus souvent qu'on ne croit. Il y a des mariages de raison qui se sont finis très très bien. Bon, ici, on n'est pas gaulliste, absolument pas, mais De Gaulle et Yvonne, c'est un mariage de, de raison. Bon, globalement, ils se sont soutenus l'un l'autre. Donc, bon, peut-être que ça reviendra. Hein, si la situation, on va dire, économique se dégrade, je pense que ça reviendra. Mais bon.
Ça reviendra uniquement s'il y a plus le dérèglement du marché sexuel comme il l'est actuellement, où en fait, c'est tout à la faveur des femmes. Bien sûr, c'est elles qui font les choix. Ça a toujours été le cas, mais là, j'ai envie de dire, ça s'est quand même grandement accentué. Ça a quand même un effet positif, c'est que ça tire un peu les mecs vers le haut. Voilà, au moins l'hypergamie a cette valeur-là, c'est que tu es obligé de sortir du lot, d'être le meilleur pour avoir accès aux femmes. On peut au moins reconnaître
mais
ça.
C'est vrai que tu as marqué un point que je vais m'empresser de... comment dire de reprendre et sur lequel appuyer, MacDav, c'est que le patriarcat, ce n'est pas foutre son sexe partout, dans tout et n'importe quoi, au prétexte que l'on est un homme. Hein, le patriarcat, c'est...
Oui, tu veux dire, le patriarcat, c'est pas le playboy, quoi.
Ouais, le patriarcat, c'est un père de famille et une mère de famille, c'est-à-dire un homme, une femme et une cellule familiale. C'est ça. Ça n'est pas
le séducteur. C'est pas le séducteur.
Oui, ça n'est. Oui, c'est une notion qui. Oui, ça... c'est marrant que tu vous parlez de ces notions-là. C'est quelque chose qui est en général, géographiquement connoté. Hein, le patriarcat, c'est.
Oui, non, mais.
Va vers le sud, c'est un petit peu moins le cas.
Exactement. Si je disais ça. C'est parce que moi je vois vraiment sur internet, enfin dire plus tu as une forme de masculinité qui est un peu raillée, et plus les jeunes hommes vont trouver leur voie dans une forme de travestissement viriliste. Mais c'est pas la solution pour moi, pas du tout.
Bah, c'est une forme de compensation, c'est tout simplement une forme de compensation. C'est... Mais après, bon, évidemment, alors je vais simplement donner un... Je voulais préciser quand même deux, trois choses, je pense que j'ai déjà dit ça dans l'émission, mais... Bon, de toute façon, faut bien comprendre que le patriarcat, bon, vous avez expliqué, hein, c'est le père de famille, c'est le pater familias, mais c'est un statut légal. C'est légal, ça passe par la loi. C'est ça qui est essentiel à comprendre. Donc quand on parle de patriarcat ou de charia blanche pour attirer l'attention, c'est jamais que de rétablir ce qui a existé, c'est-à-dire la primauté du père au plan légal sur la famille, c'est-à-dire la femme et les enfants. Et pour leur bien, pour leur protection, bien sûr. Ça a été sciemment démonté par deux catégories de personnes que sont les juifs, les intellectuels juifs, et les juives, et les féministes. Mais le féminisme et les juifs sont intrinsèquement liés. Si vous vous intéressez à l'histoire du féminisme, vous découvrirez que, c'est vrai en Amérique du Nord, c'est vrai aussi dans nos contrées, les juives ont joué un rôle très important dans, évidemment, l'agitation féministe, les appels à abolir, effectivement, ce qu'ils appelaient le patriarcat, la libération sexuelle, etc. Bon, comme c'est écrit dans les évangiles, tu les jugeras à leurs fruits. Après 50 ans de féminisme, on peut juger du fruit. Bon, bah, le résultat est clair dans le monde occidental. Effondrement complet de la natalité. L'Europe traverse un hiver démographique. D'accord ? Une très grande licence sexuelle, effectivement, avec un encouragement en fait, à plutôt cultiver. Non pas le rapport dans la durée, etc., mais beaucoup plus le rapport sexuel récréatif, on va dire. Et finalement, l'enfant, c'est un caprice. On le voit d'ailleurs, puisque la bourgeoisie, qui est maintenant très homosexuelle, assume totalement le fait d'aller acheter des rejetons dans le sous-continent indien, en Afrique noire, voilà, d'aller les voler même. Une pensée quand même pour les forces spéciales françaises qui se sont fait décaniller par les nègres.
Oui, au Bénin.
Voilà.
Oui.
Alors, pour sauver deux rondelles qui étaient parties kidnapper des négrillons à la frontière, affaire passablement tue par Monsieur Macron, qui peut-être partage avec...
Les forces spéciales, hein, me semble-t-il.
Oui, oui, les forces spéciales, voilà, forces... bon...
C'est-à-dire deux éléments des forces spéciales de...
Racialement, ça, oui, oui.
Mais racialement supérieur de,
hein, oui, oui,
de
des Übermensch, on appelle ça, hein, oui.
Des Übermensch, des Übermensch qui ont été sacrifiés
pour de fiottes,
pour que des fiottes qui se lustrent l'anus puissent survivre. Donc c'est
il y a des choix qui valent, sentence.
Une des deux fiottes était je dois le dire avait une couleur qui laisse qui interroge.
Ah oui, non, il y en avait un qui a un phénotype pratiquement maghrébin. Oui, tout à fait, oui, ça c'est vrai, je me rappelle bien.
Oui,
enfin, je m'écarte un peu, mais cette anecdote paraît absolument dérisoire, mais en fait elle traduit les préférences d'une société, les préférences d'un État. C'est clair, parce que les deux hommes en question, les deux forces spéciales qui sont morts, étaient engagés. Je crois qu'il y en a un qui était fiancé, l'autre qui était peut-être jeune papa, mais bon, je me rappelle plus, vous m'en voudrez pas. Mais de toute façon, des gens qui voulaient justement fonder une famille, vous voyez, alors que les deux autres étaient des improductifs consubstantiels en tant que PD, et qui allaient toucher des négrillons, voire essayer d'en rapporter. Donc, ça nous dit tout, oui,
qui allait dilapider l'argent français chez les nègres.
Oui, oui, bon, bien sûr, accessoirement. Oui, donc, oui. Tout ce que je veux dire, c'est que le patriarcat a été démantelé, et 50 ans après, on peut juger de ce que ça a donné. Et c'est une catastrophe. Donc, oui. Les deux sexes sont mécontents, parce qu'au fond, les deux sexes sont mécontents, mais comme on peut activer en permanence par les médias, par les magazines, la libido des hommes et des femmes, notamment des femmes, on peut leur suggérer, en fait, de compenser le malaise qu'elles ressentent et dont on occulte les raisons, en fait, parce qu'on leur dit pas, c'est parce que vous trouvez pas votre moitié, en fait, on leur dit pas ça. On leur dit, c'est parce que vous trouvez, ah oui, mais vous voyez, votre épanouissement, vous comprenez, intérieur, blablabla, ah ouais, ça irait tellement mieux si
c'est
vous avez...
C'est parce que le patriarcat blanc vous oppresse. Donc, maquez-vous avec des
plus,
nègres... maquez-vous avec des nègres et chiez des mulâtres, et vous irez beaucoup mieux.
Voilà. Alors, pour résoudre ça... Alors d'abord, il faudra que ça vienne du tréfond de la race blanche, c'est clair. Non pas pour l'imposer à la totalité du territoire, parce qu'on ne sait pas dans quelle situation aura évolué la France à ce moment-là, mais je veux dire, à l'intérieur, des masses blanches, il faudra que ça vienne des hommes. Parce que c'est les hommes qui revendiquent pas leurs droits. Ça commence par ça. Quand une femme fait une crise et que vous n'avez pas envie de céder, la femme n'aura pas le dernier mot. Or, le féminisme, c'est une femme qui fait une crise et l'homme est trop faible et il capitule. C'est ça, la réalité. Et malheureusement, on essaye de normaliser cette capitulation. Et ça continue, on voit bien. Hein, bon. Je pense aussi que c'est lié au fait qu'on est dans une société qui est quand même... une société qui est globalement riche, qui s'emmerde, où on est devenu indifférent à tout, très domestiqué. Bon, l'égalitarisme est prévalent, etc. L'objectif, c'est de consommer. Voilà. Donc, finalement, il y a une démission générale, en fait. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut que ça vienne du tréfonds du peuple. C'est-à-dire que tant que le peuple, tant que la plèbe, elle se contente de consommer, elle se contente d'être au niveau, la satisfaction immédiate de l'estomac, c'est très clair que sur cette question-là, il y aura pas de réponse, c'est clair.
Oui, sur le féminisme, on a quelques exemples d'absurdité. Alors, Elisabeth Badinter, par exemple, la femme de Robert Badinter qui a fait abolir la peine de mort, Elisabeth Badinter, elle pense que l'instinct maternel n'existe pas. Donc, c'est quelque chose d'artificiel ou de rare ou de bizarre que les femmes peuvent aimer leur enfant, par exemple. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a celle qui avait créé le planning familial aussi, Margaret Sanger, donc Sanger, qui avait dit que les gens qui avaient des familles nombreuses étaient des malades. Elle avait même suggéré plusieurs fois qu'il fallait les tuer. Donc, il y a plein de choses. Il y a Freud qui avait dit qu'il y avait le complexe d'Oedipe. Donc, en réalité, le garçon, il voudrait tuer son père pour baiser sa mère. C'est ça que ça veut dire concrètement. Donc, ça,
oui,
c'est
donc,
vraiment
oui,
des choses, des absurdités.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, oui, tout à fait, et il faut pas oublier le freudo-marxisme, parce que le féminisme, c'est pas simplement, tiens, j'aime pas les hommes. Le féminisme, c'est parce qu'évidemment, le produit fini, ce que vous recevez dans votre magazine féminin ou dans votre série à la con, effectivement, c'est le produit fini. Et ça se situe généralement au niveau du sexe, quoi, à peu près. Bon. Mais la théorie féministe est une théorie révolutionnaire d'inspiration à la fois marxiste, donc de la révolution marxiste prônée par Karl Marx, fils de rabbin, et par Freud. Le féminisme, c'est la conséquence, c'est le fruit de la convergence, de la confluence entre le marxisme et le freudisme, par définition. Donc, forcément, c'est un produit juif. C'est un produit juif. Et c'est trop peu dit, c'est trop peu dit, mais bon, c'est pourtant vrai, c'est pourtant vrai. Mais bon, je pense vraiment, de toute façon, sur cette question-là, je veux dire, il n'y a pas de femmes fortes s'il y a des hommes forts. Je veux dire, les femmes sont trop fortes aujourd'hui, parce que les hommes sont trop faibles aujourd'hui, tout simplement. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Voilà. Donc, quand on aura des... Mais il faut aussi que des hommes aient envie de prendre des responsabilités aussi, vous voyez, parce qu'une femme, elle couche pas toute seule. Hein.
Oui, absolument, mais moi j'entends énormément de femmes se plaindre de la baisse de la qualité des hommes. Très, très, très fréquemment.
A raison.
A raison également, effectivement.
A raison, je suis d'accord avec ça. Moi je vois des bons partis autour de moi, j'en connais. Des mecs qui sont travailleurs, qui sont sérieux, qui sont pas moches. Qui sont payés une maison, hein, à la sueur du front, qui ont un bon standard de vie. Ils trouvent pas de femmes, ils trouvent pas de compagne. Mais c'est pas, je dis, c'est pas des bons bigaleuses.
L'avantage, malgré
hein.
tout, c'est qu'à 35 ans, pour un homme, on n'est pas encore vieux, quoi. À l'inverse des femmes, oui. Pour elles, le compte à rebours est beaucoup plus. Ça déroule beaucoup plus rapidement.
Ce qui devrait d'ailleurs les inviter à faire preuve de beaucoup plus de prudence quant à l'utilisation du précieux temps qu'il aurait accordé pour.
Oui. Une femme arrivée à 30 ans, c'est vrai que ça commence à sentir le sapin, hein, quelque peu.
Disons que, comment dire, bon, heureusement, enfin bon, une femme. La beauté d'une femme, quand même, n'est pas limitée uniquement à sa plastique, je veux dire. Bon, on a tous eu des mères, des grands-mères, avec elles, qui ont leur beauté à elles, vous voyez, mais c'est pas la beauté sexuelle, vous voyez, c'est pas la beauté, c'est pas le désir, on est d'accord. C'est pour ça qu'il faut qu'une femme puisse franchir tous les âges avec une certaine tranquillité d'esprit. Mais pour ça, il faut un compagnon. Et il faut un compagnon à la hauteur, bien sûr, voilà. Si on réduit la femme à leur seule dimension sexuelle, et c'est une dimension qui existe, elle doit pas être minorée, elle doit pas même être réprimée, mais c'est pas la seule.
Non, mais une femme doit quand même pouvoir faire des enfants.
Tout à fait. Pas, mais les femmes si veulent faire, dans leur écrasante majorité, elles veulent des enfants. Elles veulent des enfants.
Oui, non, mais si tu prends un truc à 40 ans...
Tout à fait.
Bon, plof, quoi, hein, c'est mort. Quoi.
Oui, la plupart des femmes qui déclarent ne pas vouloir avoir d'enfants, mais c'est malheureusement plus en plus fréquent... Oui, soit sont folles, soit en fait avouent qu'elles
sont
abandonné
aliénées.
L'idée de soit parce qu'elles ne peuvent pas, soit parce qu'elles ne veulent pas trouver un homme potable. Voilà.
Je le conçois. Le bon terme, c'est pas qu'elles sont folles, c'est qu'elles sont aliénées. C'est le bon terme. C'est un terme très important, ça veut dire qu'elles ne sont pas elles-mêmes. La société les empêche d'être elles-mêmes, de laisser leur nature profonde s'exprimer.
Elles sont dépendantes de quelque chose. Et victimes, du coup.
Elles ont été tordues.
Ouais, et l'aliénation, c'est un vrai problème. C'est quand vous n'êtes pas vous-même, d'accord ? Quand vous n'êtes pas vous-même. Et la société essaye de déformer les gens, d'ailleurs. Sur toute une série de questions, d'ailleurs. Notamment les questions raciales, les questions identitaires, bien sûr. Mais aussi ce qu'ils appellent les identités de genre. Vous savez, ils veulent forcer les gens à ne pas être ce qu'ils sont. C'est pas parce que vous avez un travelot qui veut se faire couper le bistouri pour se sentir être une femme, alors que c'est un mec, que toute la société doit s'adapter à ces quelques tarés. Or, c'est ce qui se passe, vous voyez ? Donc, l'aliénation vient par là. Quand vous avez la promotion du LGBTisme, vous avez la promotion de l'aliénation des gens, d'accord ? Parce que 95% des gens sont hétérosexuels, vous voyez ? D'accord ? Bon, allez, soyons pessimistes, 90%. Bon, ça fait 9 sur 10, c'est énorme. Donc, 9 personnes sur 10 ne se reconnaissent pas du tout dans le baratin LGBT, truc, machin. C'est pas ce qu'ils demandent, vous voyez ? Mais, il faut aussi savoir une chose, les masses ne sont pas motrices. Donc elles ressentent la frustration, elles ressentent le manque, les femmes ressentent notamment beaucoup le manque, mais elles ne savent pas pourquoi. Elles n'ont pas la solution, elles n'ont pas le... C'est là que ça se passe au plan politique, et c'est là que ça se passe aussi au plan légal, c'est-à-dire qu'il faut la force qui structure. Mais si vous laissez les masses à elles-mêmes, elles vont continuer à être frustrées, à insatisfaites, à errer, allant d'une déception à une autre, comme ça, voilà, avec des ersatz produits par le système, d'ailleurs. Hein, je sais pas, il y a quantité de trucs à ce niveau-là, je sais pas comment... des sextoys, des trucs comme ça, vous voyez, mais c'est, non, ça répond pas à l'équation fondamentale.
Et c'est là qu'il faut le retour de la puissance paternelle. Hein,
tout à fait.
Autrement appelé charia blanche de manière mémétique par nous-mêmes.
Qui marche très bien.
Qui marche très bien auprès des gens sains et qui fait frémir les détraqués dans tout genre. Pour des raisons tout à fait obscures, comme leur thème hein, d'ailleurs. Alors,
Alexis. Un peu plus d'informations sur l'ascendance
quant à cette histoire de contraception et de pilule abortive. Alors, il y avait une première version de la pilule qui avait été mise au point dans les années 60 et qui avait été appliquée par un homme politique qui avait été entre guillemets résistant, c'est-à-dire Lucien Neuwirth, donc sous De Gaulle. Bon. Mais c'était un franc-maçon, mais normalement il n'était pas juif. Par contre, ensuite a été développée une autre forme de pilule dans les années 80. Le nom officiel, c'était Beaulieu, mais ce monsieur Beaulieu s'appelait en réalité Blum. C'était la même famille que Léon Blum. Et ce monsieur Beaulieu, alias Blum, c'était l'oncle de Vincent Payon.
Voilà.
La judéo-maçonnerie, donc.
Vincent Payon, dont les enfants ont je crois que c'est trois filles d'ailleurs, ont des prénoms hébreux. Hein,
ah bah non, mais même la laïcité bien comprise.
Conformément à la laïcité républicaine.
Voilà, tout à fait, et Vincent Payon, qui était d'ailleurs un ardent défenseur de la laïcité, s'était flatté d'avoir participé à la bar mitzvah de un de ses enfants, je me rappelle.
Vincent Payou.
Alors messieurs, je vous propose de passer au sujet suivant. C'est rubrique numéro 2, le commentaire de la semaine. Alors, c'est une nouvelle rubrique en fait. C'est, si sur la semaine il y a eu un sujet, un échange intéressant sur le forum EELB, vous pouvez retrouver sur le site eelb.su, ça vaut la peine de le citer. Alors là, j'ai eu une description de Mont-de-Marsan qui ne m'a pas laissé de marbre et j'ai voulu la partager avec vous. Alors je lis. Alors c'est signé, c'est Racisme Positif. C'est un des contributeurs du forum que je salue au passage qui nous fait le descriptif suivant. Donc je vous le donne tout de suite. Alors donc là, on est dans le sud-ouest de la France, Mont-de-Marsan, bien sûr. Alors, les récents courriers lus dans les émissions ont à peu près bien résumé la situation de la région Gascogne-Pays Basque. Beaucoup de blancs, surtout dans les villages. Laissez-moi néanmoins vous parler ici plus en détail de la préfecture du département des Landes, Mont-de-Marsan, dont le niveau de remplacement pourrait vous surprendre. La ville compte au moins trois quartiers infestés de métèques, le Péglé, le Pérois et le centre-ville, ni plus ni moins. Cela fait des décennies que le phénomène existe. Le nouvel écoquartier du Pérois, après un plan d'investissement de 60 millions d'euros, qui a parfois été jusqu'à allouer aux bougnoules des logements individuels avec système de chauffage écologique, est le plus connu d'entre tous. Les rares Européens qui y subsistent sont tous des descendants d'Espagnols ou d'Italiens. Depuis des décennies, donc, le Pérois n'a cessé de s'étendre au nord de la ville où l'on compte aujourd'hui plusieurs mosquées. On y trouve les traditionnels bougnoules, mais aussi des nègres et même des gitans assez nombreux dans la ville. Tous les collèges et lycées ont également leur lot de métèques, qu'ils soient publics ou privés, et c'est encore pire dans les établissements professionnels dont j'ai pourtant entendu dire qu'ailleurs, ils étaient parfois des bastions pour les blancs travailleurs tôt formés à des métiers utiles. Ici, ce sont simplement des déversoirs à métèques en surplus, qu'on ne peut pas envoyer en général, donc en enseignement général, sous-entendu, et qui vont foutre la merde dans toutes les entreprises possibles pour leur stage inutile. Enfin vient le centre-ville, qui n'était certes pas spécialement attrayant de base. Mont-de-Marsan est une ville tout à fait ennuyeuse en dehors des annuelles périodes de fêtes, très prisée dans la région, et elle aussi de plus en plus gangrénée par les métèques qui, jusqu'à il y a peu, ne s'y montraient guère. Mais, donc pour en revenir, qui avait au moins le mérite d'être calme et blanc? Aujourd'hui, les Bougnoules possèdent de nombreux commerces et ont fait fuir les locaux vers les quartiers plus périphériques, toujours bien blancs quant à eux. Il en va de même pour la commune limitrophe de Saint-Pierre-du-Mont, où, excepté le cloaque nommé la Moustet, qui ressemble à n'importe quel autre trou à merde africain de ce pays, les Blancs sont en majorité. Politiquement, c'est désespérément socialiste, quoique Mont-de-Marsan a viré « centre-droit » entre guillemets depuis quelque temps, ce qui n'empêche pas les métèques non approvisionnées, c'est-à-dire les MNA, donc les mineurs étrangers isolés, hein, c'est un jeu de mots, hein, de littéralement pulluler dans les rues de la ville depuis des années. On les voit déambuler, sans but apparent, commettant régulièrement larcins et crimes, qui arrivent même parfois jusqu'aux colonnes de démocratie participative. Et là, il met des liens vers des faits divers qui ont pu être cités sur le site. La crise des réfugiés orchestrée depuis 2015 a vraiment été dévastatrice pour l'ensemble du pays, et si des villes ou des villages qui avaient jusque-là été épargnés ont à cette occasion subi leur première cargaison de shitskin, donc de peau de merde, le centre d'accueil de Mont-de-Marsan, d'ailleurs surpeuplé, n'a fait qu'aggraver les choses. En tant que telle, la ville n'est pas soumise à l'ultra-violence permanente ou au remplacement intégral, mais vous ne pouvez pas vous y balader sans voir de métèques. Et ils y ont de leur vaste quartier. Je vous déconseille donc purement et simplement de vous y rendre, c'est une perte de temps. Il n'y a pratiquement rien à voir ou à visiter, les villages profonds et les communes de la côte atlantique sauront bien plus vous séduire, tant le taux de blanc y est élevé, atteignant souvent 100% de la population. On peut ainsi y trouver des collèges pratiquement homogènes et donc paisibles, chose devenue très rare en France. En revanche, dès l'âge du lycée atteint, les gamins doivent se rendre à Mont-de-Marsan ou à Dax, où ils sont donc familiarisés avec le cosmopolitisme et deviennent souvent dégénérés. Toujours un spectacle assez tragique. Imaginons néanmoins que vous ayez à travailler à Mont-de-Marsan en cas de relocalisation dans la région, vous ne vivrez pas un cauchemar si vous venez d'une grande métropole. Mais ne faites pas l'erreur de croire qu'il s'agit d'un paradis blanc. Tel pourrait être le cas si vous trouvez une maison plus excentrée. Mais à ce compte-là, je vous recommande chaudement d'aller vous installer dans les communes avoisinantes, quitte à faire un peu de trajet tous les jours en voiture. Ça en vaut la peine. Alors ça, c'est le premier commentaire qui avait suscité une réaction d'Arien Libre, qui visiblement est familier du coin. Voici ce que dit Arien Libre. « Oui, Mont-de-Marsan, ce n'est pas l'enfer nègre ou bougnoulique, et les campagnes aux alentours sont bien blanches. Toutefois, ça vote très à gauche, donc pour espérer tout militantisme ou rencontre entre nations, ça va être compliqué. Après, pour tout ce qui est fête, personnellement, je n'y vais même pas. C'est un lieu de débauche et de dégénérescence avec de la musique nègre. Pour tout ce qui est lycée, même dans le tréfonds de la campagne, le cosmopolitisme est bien présent, même en présence que de blancs. » Sur ce, Racisme Positif réagit à son tour. Effectivement, la mentalité gauchiste est bien enracinée, même si l'on trouvait quelques milliers de braves gens pour voter sur la liste Front National en 2014, à l'époque un peu moins diabolisée, et cela constitue tout de même un indicateur intéressant. Quant au fait, les beuveries actuelles avec de la musique nègre à fond n'ont effectivement rien à voir avec ce que cela pouvait être il n'y a pas si longtemps. Les fêtes de la Madeleine de Mont-de-Marsan existent depuis la fin du XVIe siècle. Il s'agit donc bien d'une forte tradition locale et ont toujours constitué un lieu de rassemblement festif pour les Blancs. Il est vrai que, avant même l'été et pendant toute la saison ensuite, les Gascons et les Basques se transforment en véritables homo festivus, ce qui peut parfois irriter à raison. Aujourd'hui, néanmoins, la musique y est nègre. Les déglutitions récurrentes et les bandes de métèques et les viols vols qui vont avec ont progressivement fait leur entrée sur scène. On ne rate donc pas grand-chose en ne s'y rendant pas. Quant au lycée, hors des plus grandes villes du département, je dois bien reconnaître que j'ignorais ce qu'il en était, donc j'ai même omis d'en faire mention. Pas étonné d'entendre qu'ils sont également vecteurs de cosmopolitisme. Il est de toute façon ardu d'échapper à la négrification généralisée, y compris dans les régions les plus préservées, même si l'on trouve toujours des rescapés. Pour ce qui est des collèges, il faut également savoir, car ce n'est pas le cas partout, que le département fournit des ordinateurs portables à chaque élève, et depuis quelques années également des iPads par endroit, depuis le milieu des années 2000 environ, projet lancé en 2001 par le funeste Emmanueli, oui, qui nous a fait le plaisir de crever d'ailleurs. Si l'initiative pourrait s'avérer bonne sur le papier, dans les faits, en plus des quelques gamins blancs qui n'y font pas attention, filaient des PC au bougnoul, gitans et compagnie, qui les cassent plusieurs fois dans l'année et ne paient jamais rien, est encore un moyen efficace trouvé par nos dirigeants de perdre du fric. Mais bon, c'est le département qui paye, donc ça va. Alors, il y a eu ensuite une dernière réaction assez intéressante, et ça c'est Bandera aussi, qui est un membre du forum et que je salue amicalement, et qui a connu Mont-de-Marsan et qui réagit, qui nous dit la chose suivante. Il y a bien longtemps, en me rendant à la base de Mont-de-Marsan, pour raisons professionnelles, j'eus la surprise dans ce coin que je croyais préservé de voir, traversant la rue, des bâchés et des crasseux en djellaba, l'air mauvais. Comme une impression de découvrir des cafards se carapatant dans son chez-soi propre, un dégoût révulsif. Puis, un jour, tournant directement à droite, en sortant à la recherche d'un raccourci que jamais je ne trouvais, je tombais littéralement sur le nid de cafards, ça grouillait de partout. Donc, entendons-nous bien, exactement collé à une base militaire qui, il n'y a pas si longtemps encore, avait un rôle stratégique. La République a collé un nid d'islamistes. Ce ne sont pas les quelques braves gendarmes à l'entrée qui pourraient faire quoi que ce soit contre une attaque. Ça fait longtemps, depuis il y a eu l'invasion migratoire de 2015 et la politique juive d'étalement de la merde, j'ai lu sur les nombreux crimes sordides dans cette pauvre ville. J'ai une pensée émue pour cette restauratrice exilée du 93 qui m'avait avoué avoir déménagé juste pour éduquer ses enfants dans un endroit sain et sans crouille. Moralité générale du guide racial, la fuite ne sert plus à rien, quel que soit le prix, ils ne laisseront jamais l'égoïme en paix tant que nous n'en aurons pas fini avec eux. Voilà. Alors vous me pardonnerez, l'échange est un peu long, mais très instructif selon moi, puis c'est plus vivant parce qu'il y a plusieurs intervenants, c'est pour ça que cette rubrique me paraît intéressante. Éventuellement, je sollicite nos participants, peut-être ont-ils quelque chose à dire, même si finalement on est assez au fait de cette évolution. Je ne connais pas à titre personnel Mont-de-Marsan, je passais pas loin, mais je suis pas familier.
Moi non plus, mais on a eu quand même pas mal de courriers sur la région, ouais. Ce à quoi nous... notre auditeur, c'était ouais. C'est dans la région est relativement blanche, hein, même très blanche.
Ouais, ouais, ouais.
Mais oui, Mont-de-Marsan, il y a des. C'est connu pour de certaines fêtes à certains moments de l'année. Et oui, les gens du coin se mettent en mode. Enfin, mettre le cerveau sur off pendant quelques temps.
Quoi, ouais.
À ce moment-là. Et quand ils mettent le cerveau sur off, en ce moment, ils deviennent nègres. Hein, parce qu'ils passent du je sais pas, peut-être du Nino, ce genre de choses-là, qu'on a découvert lors de l'analyse du top 50. Cet été,
qu'on avait découvert avec...
C'est-à-dire que le truc était intégralement rempli de
nègres. Le top 50 est nègre en France, faut le savoir.
Ouais.
Il y a un truc quand même que j'avais dont j'ai entendu parler, ouais. mais comme je suis pas familier, je m'avancerai pas. Mais c'est l'histoire de la fête en fait. Pardonnez-moi de la redondance, mais de la fête en fait. Oui, il y a des fêtes dans le Pays Basque, etc. Et on m'a dit que c'est un phénomène assez récent, depuis quelques années, où les métèques et notamment les maghrébins, donc les crouilles quoi, viennent coller leur nez dans ces fêtes et évidemment les ruinent totalement parce que c'est agression, coup de couteau, insultes vis-à-vis des filles, etc. Agression sexuelle, ça va sans dire. Et donc ça ruine complètement le truc. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai vraiment eu des fêtes qui sont pas nécessairement des grandes fêtes, mais même des fêtes de village, je veux dire, vraiment des fêtes, on est dans le rural, on n'est pas du tout dans des grands centres urbains. Hein. On est dans des zones assez rurales où il y a des fêtes de village, où vous avez les bougnoules qui viennent fourrer leur nez pour foutre la merde. Donc quand on parle d'invasion généralisée, c'est tout à fait vrai, parce que c'est vrai qu'il y a une idée qui était assez répandue, on va dire, à la fin des années 90, début des années 2000, c'était que finalement, l'immigration de masse et le grand remplacement, c'était un phénomène, somme toute, qui était réservé aux très grandes villes. En gros, c'était ça. Certes, il y avait de l'immigration dans des villes de taille plus modeste, mais grosso modo, c'était limité aux grandes villes. Voilà. Or, et ça, c'est peut-être la nouveauté des années 2010, on va dire, et encore plus, je pense, la décennie des... Enfin, 2020, quoi. Ça va se répandre dans des communes très modestes. Très modestes. Et Mont-de-Marsan, donc là, pour le coup, ça n'a pas l'air, de ce que disent les témoignages, hein, ça n'a pas l'air très attractif économiquement, mais ça y est, il y a déjà une énorme colonie de bicots. Les gitans, dont on parle assez peu des tziganes, finalement. Hein, pourtant, il y a un consensus à leur égard dans le sud-ouest, c'est que c'est universellement
c'est
une race de
merde. Hein. Proche de l'Espagne.
Ça vient de là, hein. Oui, ça vient d'Espagne. Hein. Tout à fait, enfin... Non, mais
c'est vrai, Pakistan, ça s'est basé pendant pas mal de siècles en Espagne, et puis ça a débordé par la suite.
Ça a débordé.
Ouais. Donc ça a débordé comme.
Ils ont été accueillis à bras ouverts, d'ailleurs.
Oui, oui.
Le général Franco s'est fait plaisir, hein, il a quand même vidé ses poubelles chez nous. J'ai une grille, j'ai une dent contre lui, quand même.
Oui, ouais, j'en ai plusieurs, pour ma part, mais oui.
Non, mais je veux dire, il aurait pu vider ses poubelles, par exemple, au Maroc.
Dans la mer, par exemple.
Aussi.
Hein, ça aurait été bien. Mais c'est vrai qu'il a décidé de nous d'envoyer ça en France. Ouais.
Mais bon, je tiens aussi à souligner que la Troisième République, Monsieur Blum, a su se montrer généreux à l'égard des Espagnols rouges, donc des anarchistes, communistes, tziganes et autres racailles, qui par la suite ne manqueront pas de semer la mort et la dévastation en France lors de la guerre civile, c'est-à-dire entre 1941 et 1945. Hein, et il continue d'ailleurs, puisqu'on a Anne Hidalgo à Paris qui négrifie absolument la ville. Voilà, ça c'est de la revanche rouge.
Cher Gandalf, permets-moi d'esquisser un petit lien entre ces Espagnols rouges qui sont dans ces coins-là.
C'est dans ce coin-là, ouais, c'est Perpignan, c'est Carcassonne,
et les
Bougnoules, Toulouse, ouais.
Oui, donc les Espagnols rouges d'un côté et les Bougnoules qui arrivent de manière tout à fait surnaturelle de l'autre.
Ouais.
En fait, en réalité, c'est tout à fait lié. C'est-à-dire que c'est tous ces coins-là du sud-ouest ont été quadrillés par les rouges. Hein, de l'Aude jusqu'aux Pyrénées Atlantiques, ça a été totalement quadrillé. Ils ont fait leur machin, leurs organisations, leurs ci, leurs là, etc. Les communistes ont aussi attrapé des villes dans les banlieues du sud-est après la guerre, donc avant que ce soit maintenant plutôt Front National depuis plusieurs années, mais ça a été pendant pas mal de temps communiste. Ça a été communiste aussi dans les banlieues rouges dans la région parisienne, ça a été aussi le cas dans l'est et dans le nord. Et ces gens-là ont fait des associations, des machins, des signes-là, payés par les impôts locaux, payés par l'État, de manière très grasse. Hein, ces gens-là ont façonné l'administration au fil des décennies. Et ils ont mis en place des structures, des associations, des vecteurs permettant à des nègres, à des bougnoules qui pullulaient dans ces localités-là, dans ces villes que les communistes avaient conquises, hein, donc dans le sud-est, dans la région parisienne, dans l'est, dans le nord. Ils ont permis aux bougnoules d'aller à la montagne, à la mer, dans les régions un petit peu à la campagne. Et donc, en l'occurrence, là, ça a été le cas à Mont-de-Marsan. Donc, c'est dans ces coins-là, dans le sud-est, rouge.
Ouais.
Ils avaient des antennes locales. Donc, leur projet, c'était de ventiler des métèques partout pour faire France, hein, comme aimait à le dire Terra Nova. Voilà.
Donc, faire c'est, France.
Ce truc-là.
Oh, c'est atroce comme expression.
Faire France. Mais oui, la France est atroce. C'est effectivement une expression qui est une insulte en 28.
Non, mais c'est
un chiotte.
Non, c'est le constructivisme. Ouais. Le constructivisme, tu vois. Mais,
c'est le constructivisme.
Sans ton juif, tu vois. J'y arrive pas. Je peux pas.
Bon, pas. Ouais, ça. Il y a surtout l'Espagnol rouge.
Je veux dire une chose.
Et tous ces gens-là qui sont arrivés à Mont-de-Marsan dans le sud-est, tous ces bougnoules qui ont débarqué dans de ces zoos, ils n'ont pas débarqué dans de ces zoos. Ils ont débarqué parce que tu as des Espagnols rouges donc de l'Espagne, du Pays basque et dans toutes les banlieues qu'ils ont salopées. Ils sont allés choyer du bougnoul du dealer, etc., les envoyer à la montagne faire du ski pendant que les ouvriers, ouais, les fils d'ouvriers étaient là à rester chez eux comme des cons. Ils les envoyaient à la montagne, ils les envoyaient sur la côte atlantique, dans les Pays Basques, aller faire des randonnées avec du pot, tout ce que tu veux. Et voilà, c'est pour ça que maintenant, vous avez des bougnoules qui sortent d'On Sézou et qui arrivent venir faire des fêtes à Mont-de-Marsan, puisque maintenant, ils sont plus basques que toi, hein, local de l'étape, hein, tu es un local, tu es une relique. Eux, ils sont républicains, la République a fait en sorte qu'ils viennent chez toi pour républiquer.
Oui, alors je veux dire une chose, là c'est dans le sud-ouest, c'est que, alors d'abord, il ne faut pas sous-estimer le rôle des juifs. Et le rôle d'une autre organisation qui est le rôle de la maçonnerie. Les deux se rejoignant. Alors, il faut souligner un truc, parce que c'est vraiment cocasse, parce que peut-être des Français ne savent pas ça. Mais comme vous le savez, depuis au Moyen-Âge, les rois de France ont mené des campagnes militaires assez sérieuses dans le sud-ouest, et notamment contre, évidemment, les comtes de Toulouse, c'est très connu, quoi. Et ça a généré une profonde colère dans les populations toulousaines, enfin pas toulousaines, dans les populations de ces régions, vis-à-vis du pouvoir central français, vis-à-vis de la monarchie d'une manière générale, vis-à-vis de Paris en particulier. Bon, ça pourrait nous paraître plutôt sain, parce que quand on... Mais on voit ça avec nos lunettes d'aujourd'hui, mais voilà, donc il y a eu une espèce d'hostilité. Donc ça a créé une espèce d'irrédentisme, je dirais. D'irrédentisme. Bon. Je veux dire, au plan du caractère. Là-dessus s'est greffée la maçonnerie. Parce que la maçonnerie, au XVIIIe siècle, bien évidemment, était anti-monarchiste pour une partie d'entre elles. Pas la totalité, elle était de toute façon libérale, mais une certaine partie d'entre elles était déjà républicaine. Et puis, il y avait l'influence protestante. L'influence protestante, dans les Cévennes, etc., vous avez des gens qui sont des protestants. C'est pas pour chanter d'ailleurs les louanges du catholicisme, mais simplement, voilà, il y a des vieilles rancunes. Il y avait des vieilles rancunes vis-à-vis du pouvoir central, vis-à-vis du clergé, voilà, bon, qui avaient leur logique dans le contexte de l'époque, mais qui ont progressivement dégénéré et qui ont été récupérées par, ensuite, donc, l'antimonarchisme, l'anticléricalisme, qui ont dégénéré dans le républicanisme, puis le socialisme et enfin le marxisme. Et là-dessus, et là c'est la convergence avec le fait biologique pur, c'est l'immigration rouge espagnole, qui arrive sur un terreau extrêmement fertile, notamment à Toulouse. Notamment à Toulouse. Et ces gens-là vont servir de cadre à l'agitation sociale permanente, mais sur des terres qui étaient déjà assez remuantes, pour pas dire un peu sécessionniste.
Ouais. La remuante, bon, il y a eu les cathares.
Il y a eu les troubles sociaux, ici ou là. Je dis pas que c'est non plus le...
Non, mais le cathare dans l'Aude, il y a eu...
Non, mais c'est très présent, c'est très très présent.
Il y a eu un... Non, mais il y a eu une espèce de roi juif en Septimanie.
Oui, 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 il y en a eu un, c'est vrai. Oui, et l'histoire arabe,
Non, il n'y en a pas eu un. C'est-à-dire que ça a duré 500 ans, l'histoire, quand même. Ça a duré de 800... Jusqu'à 1300. Hein,
oui, et puis il ne faut pas oublier non plus que les Arabes...
Ça a laissé des traces.
Il ne faut pas oublier que les Arabes se sont édifiés en Potentat à Narbonne.
Oui, les Arabes qui ont été chassés à Poitiers ne sont pas vraiment repartis.
Ils ont tenu Narbonne pendant un bon moment.
Non, mais attends, ils ont été virés par Charlemagne et son frère. Hein. Enfin bon.
Oui,
quand Charlemagne ne régnait pas, d'ailleurs.
Ils ont tenu à un moment, dans le sud de la France, ils ne sont pas partis en 15 jours.
C'est plus, je crois que c'est plus vers l'est, non? C'est pas vers Saint-Tropez, là, la guerre fraîche.
Ils ont fait des raids dans cette région-là aussi, mais à Narbonne, ils ont, pendant un moment, tenu tête avant d'être finalement évincés, quoi. Narbonne a été tenue par les Arabes musulmans de 720 à 759. Quand même... Une bonne quarantaine d'années.
Mais c'est rien du tout. C'est ce que je te dis. Ils ont été virés par Carloman et Charlemagne.
Non, c'est pas rien du tout. 40 ans, c'est pas rien du tout. En 40 ans, on peut repeupler la France de maghrébins et de nègres. Et là-bas.
Peut-être à la France, je ne sais pas.
Ah non, je n'ai pas dit que les arabo-musulmans avaient repeuplé la France entre 720 et 760, mais très certainement, la région de Narbonne a été affectée génétiquement par la présence de la soldatesque musulmane. Je ne m'imagine pas.
Excuse-moi, mais après les musulmans, il y a eu les juifs. Hein. Ça a été
par les juifs. Je veux dire, voilà. Donc, c'est un territoire qui a été assez mouvant. Et pourquoi je souligne ça? C'est parce que donc, nous avons ensuite, cinq siècles plus tard, nous avons donc les règlements de compte entre le roi de France, les comtes de Toulouse, sur fond d'ailleurs avec les cathares, donc des questions d'ordre religieux, etc. Et même si les rois de France l'emportent, ils sont un peu victimes de leur victoire, parce qu'ils vont intégrer dans le royaume de France une agitation politique perpétuelle. Et ces gens, donc, qui ont une défiance naturelle, en fait, comme j'ai dit, vont sombrer assez rapidement au XVIIIe siècle dans la contestation générale de l'ordre établi, hein, enfin dans les cercles bourgeois, dira-t-on, avec ces vieux souvenirs en tête. Et plus tard, avec l'arrivée des Espagnols rouges, eh bien, il y a eu une espèce d'alchimie qui s'est faite entre des gens, entre une région qui était contestataire, qui ne se reconnaissait pas dans l'ordre dit réactionnaire, ni la monarchie, ni le catholicisme, ni d'une manière générale le système établi, et qui a vu avec l'arrivée de ces Espagnols rouges eh bien, une espèce de secours. Et il y a le phénomène régionaliste, là qui est beaucoup plus lié à la langue, comme vous le savez. Donc, ce qu'on appelle, de toute façon, d'une manière générale, le mouvement régionaliste occitan. Quoi. Bon. Ce mouvement régionaliste, évidemment, cherche par définition à se distinguer du reste de la France. C'est normal, c'est intellectuellement, on comprend la démarche. Et ce qui va se passer, c'est par misérabilisme gauchiste, ils vont réinterpréter toute une série de pans de l'histoire pour renforcer leur position différentialiste, en quelque sorte. Et donc, la conquête arabe, finalement, c'est pas tellement un malheur, c'est plutôt une bonne chose, c'est une partie de notre histoire à nous, vous comprenez, etc. Les Espagnols rouges raffolent de ça, de toute façon, tout ce qui peut saccager l'ordre établi leur va tout à fait. Et avec l'immigration des bougnoules, qui n'a rien à voir, enfin, à 13 siècles de distance, ça réactive le discours. Donc vous avez une convergence incroyable entre des révolutionnaires communistes venus d'Espagne, des gens qui ont des vieux comptes à régler avec le pouvoir central depuis les rois des Francs, et une immigration musulmane qui permet de réactiver la geste de l'invasion maure de la France au 8e siècle. Voilà. Et ça vous donne le résultat que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire la ville de Toulouse qui est l'antre du démon, mais il ne faut pas enlever de cette équation le juif. Hein, y a des figures juives très connues sur Toulouse, il y a une grosse communauté juive, hein, y a une très grosse communauté juive.
L'ancien maire de Toulouse est un couen, je crois,
c'est
un couanim.
Tout à fait, c'est un prêtre, comment dirais-je, donc un prêtre du temple, hein, de Jérusalem, pour ceux qui ne le sauraient pas, et surtout... C'est là que le Mohamed Merah a sévi, parce que ils ont beau tous venir du même trou, il y a parfois des bisbilles entre mahométans et juifs, et Mohamed Merah avait passablement écorché quelques juifs dans une école juive. Voilà. Il n'y a pas de Français qui sont morts d'ailleurs à cette occasion-là, si vous en rappelez, hein. Il n'y a que des juifs, des Antillais, des Marocains, des trucs comme ça. Il n'y a pas de Français qui sont morts, précisément pourquoi? Et parce qu'il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de Français.
Parce qu'il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. À cause du phénomène historique que j'ai cité. Alors, l'occitanisme aujourd'hui, évidemment, n'a rien à voir. Alors bon, c'est gentil, on met ça sous le nez des gens pour leur faire croire qu'il s'agit de la défense vigoureuse du terroir. Il y a certainement des gens qui sont encore sincères dans leur engagement et qui ne sont pas corrompus par la subversion marxiste et immigrationniste, cosmopolite. Mais ce n'est pas la majorité. Hein. Le mouvement occitaniste est profondément infecté de marxisme. Et d'antiracisme, c'est-à-dire de haine de la race blanche. Quoi. Voilà. Donc ça, voilà, ça vous pose un peu le cadre historique du secteur, donc faut pas s'étonner que ça vote à gauche, faut pas s'étonner que, voilà, bon, vous avez compris. Quoi. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose, faire une observation? Évidemment, hein, attention, hein, ce que je viens de dire, c'est à grands traits. Hein. Ça décrit pas toutes les personnes qui vivent dans le sud-ouest, ça décrit pas toutes les communes, pas du tout. Hein. Mais bon, il y a une trame, on va dire, il y a une trame au plan politique, au plan symbolique, au plan de l'imaginaire. Et on la retrouve notamment beaucoup dans la presse qui est infectée de maçonnerie.
Bah de, hein, de, ma- beaucoup, de maçonnerie, de radical-socialisme.
Hein. Avec Bailey,
le Midi Libre, hein, c'est voilà. Bailey tout ça.
Hein. Et c'est un juif, hein, Bailey, hein, c'est un juif. Hein.
C'est un juif et c'est,
attends,
c'est
un radical. Jean-Michel Bailey
Ouais, c'est un juif. C'est un juif, ouais. Maman est juive. Hein. Ah ouais.
Maman est juive, et donc
C'est le potentat médiatique. Il tient tous les gros médias locaux, vous savez là. Le...
Ah non, mais que c'est un radical socialiste. C'est et ça. Un potentat, je savais pas qu'il était juif du tout.
C'est la judéo-maçonnerie.
Et le radical socialisme, c'est très marqué avec cette région.
C'est dans cette région.
Oui, je le savais, mais je sais pas.
Avec la région où le Midi Libre se vend, hein, c'est très connoté.
Oui, ouais. C'est le fameux croissant rouge.
Ouais.
C'est plus ou moins le souvenir de la révolte des camisards et compagnie, oui.
C'est assez vaste, mais ça peut même remonter. Bon, c'est pas les mêmes régions tout à fait, mais ça se touche. T'as la Corrèze, qui est pas très loin, si tu veux. Et là, t'as une agitation rouge aussi, si tu veux. Bon,
Je crois même qu'à la Libération, il y a une tentative de création d'un État communiste en Corrèze.
Une petite république, une république soviétique de Corrèze, ça m'étonnerait pas. Hein.
Ah ben sache que c'est autre chose, hein, mais le drapeau communiste a flotté sur la cathédrale de Strasbourg après l'armistice de 1918. Hein.
Oui, ça je le savais.
C'est valable un peu dans toute la France.
D'ailleurs, l'Alsace avait essayé de s'ériger en république soviétique. En 1918, mais bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais par contre, je sais qu'enfin la Corrèze est très rouge. Alors la Corrèze, on est quand même pas à côté de Mont-de-Marsan, si vous voulez. Mais dans toute cette région, si vous voulez, c'est essaimé par un vieux fond républicain, enfin si vous voulez, révolutionnaire. Socialiste et communiste, quoi.
Ça correspond à la zone géographique que couvre Bailey et son journal de Midi Libre.
Tout à fait.
Et c'est en gros la zone rugby. Hein, donc le rugby, ça s'étend jusqu'à Clermont-Ferrand.
Qui est un beau sport d'ailleurs.
C'est un beau sport, mais ouais, ça vous donne un petit peu l'idée de.
Oui, il y a une différence. Clairement, il y a une différence. Ouais.
Ça va de Bayonne à Clermont-Ferrand, voilà, avec tout ce qu'il y a au milieu.
La maman de Bailey s'appelait donc Evelyn Bailey. En fait, elle est née Evelyn Isaac. Donc, petite précision.
Oui. Ouais, merci Pierrot, le bureau des études antisémites qui nous a contactés pour vérifier les choses. Peut-être un petit décrochage puisqu'on est dans la région, dans le sud-ouest, hein, grande région. Louis Alliot se présente à Perpignan, moi ça me fait un peu rigoler parce que comment dire, dans la rubrique guide racial des villes qui est présent sur le forum, et il y a évidemment des comptes rendus de gens qui connaissent très bien la région, et on le sait ici parce qu'on a reçu des courriers des lecteurs qui nous parlent souvent de l'état catastrophique au plan racial de la ville, et qui subit notamment le fléau tzigane, plus exactement appelé gitan. Voilà. Et apparemment, mes souvenirs sont un peu flous, donc je ne pourrais pas exactement distinguer les Arabes des gitans, mais de ce que nous disent nos témoins, les gitans sont pires que les maghrébins, à tout point de vue. Alors vous en faites ce que vous voulez. Et donc Louis Alliot veut briller la mairie, il a de bonnes chances de l'emporter d'ailleurs. Par contre, je n'en vois pas l'utilité. Ça, je vous avouerai que ça reste assez mystérieux pour moi. Il reste peut-être quelques blancs, je sais pas. Mais donc là, on est dans le Languedoc-Roussillon, donc on est bien dans le secteur.
Quoi. Enfin, on est très, très proche de l'Espagne. Hein.
Ah oui, les Gitans, ça déborde de l'Espagne.
Perpignan, c'est très très proche de l'Espagne.
C'est très visigothique.
Ouais. Donc un juif va administrer des gitans, donc d'accord.
Un quart de juifs algériens, c'est pas tout à fait pareil. Et d'ailleurs, Louis Alliot aime beaucoup dire qu'il son icône en politique, c'est Jaurès. Je veux dire, bon, ça dit vraiment tout, quoi. ça dit vraiment tout, quoi. Qui veut rajouter quelque chose sur tout ce qu'on a dit? Rien de particulier? Bon.
Vive la République.
Vive la République, je pense que c'est ça qui est très important. Une petite... Parce qu'on est passé par la Corée, je ne peux pas m'empêcher quand même d'avoir une pensée émue pour la division d'Asreich. Rubrique numéro 3, messieurs. Autisme radical, avant qu'on fasse une petite pause musicale. Alors là, c'est très gratiné, on va vers l'Auvergne. Alors, tu parlais de Clermont-Ferrand, bah écoute, ça fait le lien. Hein. Alors, c'est France 3, Auvergne, Rhône-Alpes, blabla, qui nous cite ça. Je vous avouerai que même moi, qui suis quand même rompu à toutes les insanités possibles et imaginables que peut produire la société française de 2020, j'ai eu la petite satisfaction d'être surpris. Bon, c'est bien. Alors, pour le pire, bien évidemment. Alors, je vous livre cet article. Alors, après l'attaque au couteau, à Romans-sur-Isère, vous vous en rappelez, qui a fait 2 morts et 5 blessés le 4 avril dernier, donc c'est tout frais, plus personne ne s'en rappelle, mais ça fait 2 semaines en fait, le bâtonnier de la Drôme, Thierry Chauvin, avait tenu des propos jugés indignes par nombre de ses confrères. Donc, le bâtonnier, c'est celui qui a la charge donc, des avocats du barreau, donc les autres avocats considèrent qu'il a tenu des propos indignes. La polémique qui a suivi l'a conduit à démissionner. Il s'explique. C'est par un courrier envoyé le 21 avril dernier à ses confrères que maître Thierry Chauvin avait annoncé sa démission. Le bâtonnier de la Drôme n'avait alors souhaité faire aucune déclaration à la presse. Aujourd'hui, il s'exprime publiquement sur les raisons de sa démission. Sa décision fait suite à la polémique qui a éclaté le 4 avril dernier, lorsque le représentant des avocats drômois publiait sur Facebook, dans un groupe privé, des propos jugés choquants par certains de ses confrères. Maître Thierry Chauvin s'en prenait à l'auteur de l'attaque au couteau de Romans-sur-Isère, indiquant qu'il ne désignerait aucun avocat d'office pour le défendre, et même que cet homme pouvait, je cite, « crever où il veut, rien à foutre, et moi aussi, je pèse mes mots ». Indigné. Certains de ses pairs ont publié une tribune pour dénoncer ses propos dans une revue juridique. Une tribune qui a convaincu Maître Chauvin de mettre fin à sa mission. Je cite « Cette décision est naturellement le fruit d'une longue réflexion », explique-t-il. « Mes raisons les plus intimes, je les ai réservées à mes collègues. Ce qui a motivé ma décision, c'est la tribune écrite par mes confrères dans un torchon le 13 avril dernier. Elle se conclut de la façon suivante. » Là, il cite la tribune. « Cet homme-là, Abdallah Ahmed Osman, est l'un des nôtres. Il nous ressemble. Nous sommes faits de la même chair, des mêmes os, et le même sang que le vôtre coule dans ses veines. C'est notre frère. » D'après Maître Chauvin, 2 de ses prédécesseurs, anciens bâtonniers, ont applaudi cette tribune, et il soutient que 5 bâtonniers de la conférence régionale à laquelle le barreau de la Drôme participe lui ont affirmé partager les pensées exprimées par leurs confrères. Donc en fait, Abdallah et Ahmed Osman, qui est notre frère, ça c'est la pensée moyenne de tous les avocats de la région. Un désaccord profond qui achève de convaincre Maître Chauvin, il ne peut plus représenter la profession, en tout cas dans cette région. Il continue. Ce qui me choque, c'est que ces gens qui s'érigent en grands moralisateurs sur les réseaux sociaux ne se rendent pas compte des conneries qu'ils disent. Essayez de remplacer le nom du terroriste par Staline ou Hitler, appelez-les mon frère et dites-moi ce que vous en pensez. Jolie famille, c'est la leur, pas la mienne. Je considère qu'en écrivant de tels propos, on crache sur les familles et les victimes. Notre profession se discrédite. Je ne pouvais plus en être l'un de ses représentants. Le bâtonnier a informé ses confrères que sa démission ne prendrait effet qu'au 31 mai, après le déconfinement, le temps que l'ordre des avocats drômois puisse organiser de nouvelles élections. « Je ne suis pas du genre à quitter le navire en pleine tempête », a-t-il conclu. Alors, messieurs, avant de vous donner la parole, je tiens à dire que Adolf Hitler n'a rien fait de mal, et c'est la démonstration vivante que c'est vrai, que c'est exact. Voilà.
Je n'ai pas compris cette citation.
Il a mis Staline quand même dans le truc, je lui remets ça. Il a mis Staline donc ouais, peut-être.
Staline n'a pas non plus fait que des bêtises. Hein.
Pas que.
Il en a fait beaucoup, hein. Les Ukrainiens et les Polonais.
Par contre, mais quand il a voulu corriger un peu certaines de ses erreurs en s'occupant des Juifs, les Juifs l'ont malheureusement assassiné. Donc c'est un peu dommage.
Oui.
Pensez peut-être pour Monsieur Beria, d'ailleurs. Bah, alors, on revient un petit peu à nos moutons. Là, on était parti à Moscou, on revient dans le truc. Alors, Abdallah, est-il votre frère? Est-ce que pour vous, c'est votre frère? Et est-ce que c'est inacceptable, en fait, de pester un peu sur Facebook? Ah, voilà, quand on dit « Non, j'ai pas envie d'un assassin pareil, j'ai pas envie de l'aider. » Est-ce que vous êtes, vous, comme les avocats de la Drôme, les avocats de la région en général? Est-ce que vous êtes... Oui.
Alors, attends, Abdallah Ahmed Osman, donc c'est un Soudanais. Donc, le mec, en fait, il bute des passants dans la rue.
Dans les magasins, enfin bon, oui, c'est un détail, mais oui.
Il crie à la Akbar, quand il se fait arrêter, il récite la profession de foi des musulmans. Il se plaint de vivre dans un pays de mécréants. Le mec, il vient du Soudan, il n'est pas français, enfin, pas encore, hein, peut-être qu'on va lui filer un petit papier. Hein.
Oui.
Et avant de buter les gens, il leur demande s'ils sont musulmans aussi. Voilà, donc ça, apparemment,
c'est... Oui, il avait fait ça, il avait demandé, t'es musulman, voilà, c'est notre frère, ouais. Ah, peut-être que les avocats de la Drôme sont convertis à l'islam, mais auquel cas ça m'aurait échappé, mais c'est possible.
Alors,
aussi. Hein.
Moi, je vais un petit peu m'inscrire en faux par rapport à cette sortie-là, qui pour le coup, me semble un petit peu... Comment je vais dire ça, c'est très enfantin, en fait, comme sortie. Parce que le type est magistrat, il donne des...
Non, il est pas magistrat, il est avocat.
Oui, c'est l'avocat général, il doit forcément désigner un avocat commis d'office pour le type qui n'en a pas. Bah, il a pas. Enfin, désolé, hein, mais ce genre de truc-là, ce genre de saloperie-là peut nous arriver. C'est-à-dire qu'un type peut dire oui, ce type-là est un nazi, donc je refuse à ce qu'il ait un avocat. J'ai du mal à me. À me solidariser avec ça. S'il avait dit de suite, bon, ben oui, ce type-là est un sale bougnoule, qu'il aille se faire enculer, eh ben, tant mieux, très bien. Mais là, si Adolf Hitler, ça sent le boomerisme quand même. Hein. Je suis désolé, c'est très vague.
Oui, mais l'instinct est bon. L'instinct est bon, si, l'instinct est bon, je veux dire, c'est, moi je tiens à recadrer les choses quand même. On a affaire à quelqu'un qui proteste, il dit, voilà, je veux pas désigner, etc. Bon, on peut dire, ouais, il respecte pas les règles, etc. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a un cas de conscience, c'est-à-dire, il dit, voilà, moi je veux pas donner la main à une ordure de clandestins musulmans qui vient égorger des Français dans les rues. Voilà, j'ai pas envie de l'aider d'aucune manière, etc. Oui, bon, ma profession, mes statuts, mes trucs m'obligent, mais j'ai pas envie. Voilà. Et je vous emmerde. Ben, moi, je trouve que c'est couillu. C'est-à-dire qu'il fait passer des principes, c'est-à-dire j'ai pas envie de me faire envahir, avant sa profession. Moi, je trouve ça bien. Bon, ça, c'est mon instinct.
Formulé de manière plus explicite, j'aurais approuvé. Là, je reste sur ma faim. Quoi.
Oui, mais bon, c'est déjà beaucoup. Et surtout, la réaction des autres avocats qui nous dit en fait ce qu'est cette bourgeoisie libérale qui fait qui fait du droit, qui va dans les universités, etc. Ce sont des gens. Je veux dire, qui s'enivrent de narcissisme. C'est-à-dire qu'ils ont des grands principes, n'est-ce pas? Mais qui sont des principes, je veux dire, ces gens sont dans un jeu de rôle ahurissant. C'est-à-dire qu'ils ne s'identifient pas aux victimes, ils s'identifient aux bougnoules. Pourquoi? Parce que c'est un bougnoule, un métèque, et par définition, c'est un opprimé, etc. Ce sont des gens qui ont un narcissisme étroitement lié à un profond complexe d'infériorité. Vous voyez, ils s'identifient à la victime. Et pour eux, la victime, être une victime, c'est valorisant. Oui, c'est très ambigu. Hein. C'est à la fois, on a un complexe d'infériorité, en même temps, un complexe de supériorité. Très, très étonnant. Et, alors, nonobstant, bon, les ravages psychologiques auxquels nous avons visiblement affaire, c'est totalement prévalent. C'est-à-dire que l'avocat général, le bâtonnier, est totalement marginal. Il est totalement marginal. Et non seulement il est marginal, mais les autres ne se contentent pas de ne pas être d'accord avec lui. Ils font une tribune pour exiger son scalp. Et ils l'obtiennent. Donc imaginez, et moi je rebondis sur ce que tu disais justement par rapport à cette histoire de si jamais j'étais nazi, etc. Bah vous savez une chose, c'est que si jamais vous recevez un, si vous êtes un nationaliste, un identitaire, même passablement quelqu'un de droite ou soupçonné de pas penser tout à fait dans les clous, quand vous commet un avocat commis d'office, vous savez que vous avez 99% de chances de tomber sur un communiste. Une ordure qui va vous planter votre défense, qui va faire du sabotage. Comme s'il n'y avait pas assez déjà du travail de sabotage des magistrats. Donc dans ce système, on perd systématiquement. Et voilà à quelle faune nous avons affaire chez ces robes noires-là. D'ailleurs, récemment encore, j'ai vu dans un autre département toute une clique d'avocats se mobilisant pour régulariser des clandestins, marchant dans la rue quasiment, appelant à la révolution. Il faut voir qu'il y a un fil conducteur dans l'histoire de France, parce que les figures de la Révolution française, les pires, viennent de cette profession de bavard. C'est pas pour rien qu'on les appelle les bavards. Les Robespierre, les Desmoulins, etc. Ça vient de là. C'est-à-dire que c'est l'archétype du bobo hors sol, si vous voulez, qui veut reforger le monde à son image. Vous voyez, ce sont des gens comme ça. Ces gens-là, moi je vous le dis, ces gens-là, il faut les mettre dans des champs de patates à travailler pendant 50 ans d'une traite. C'est ça qu'ils doivent faire, ces gens. C'est pas faire du droit. Moi, je veux rétablir les travaux forcés. Il faut rétablir les travaux forcés. Et les appliquer aux bonnes personnes. Moi, je ne mettrai pas les Arabes en premier aux travaux forcés, je vous le dis tout de suite. Hein. Je ne mettrai pas les Arabes en premier. Hein. Et je crois que...
Et les avocats.
C'est fondamental, parce que vous savez, bon, dans nos milieux, on voit ce qui est le plus visible, donc l'immigration, voilà, alors le nègre, le truc, d'accord, très bien, c'est juste. Mais on ne voit pas ceux qui ont réellement une influence dans l'ordre social, et qui se servent de cette influence pour détruire l'ordre social. T'as cité les profs, bien sûr, on en parle souvent, mais les avocats et les magistrats, ces professions du droit, des véritables bastions du vice et de la corruption. Mais plus que la corruption au sens classique, c'est la corruption morale, philosophique, vous voyez, ce sont des pourris. Ce sont des pourris, mais des pourris qui pensent, qui se croient être des justiciers, ce sont des ordures. Moi, je veux mettre ces gens aux travaux forcés. Voilà. Et il faudrait que dans nos milieux, on commence à avoir clair sur ces questions. On commence à identifier très clairement les catégories socioprofessionnelles qui posent vraiment problème. Vous voyez ? Et ça, c'est important, hein. Quand vous voyez comme ça tout un barreau qui est pratiquement en train de former des soviets, parce qu'ils sont en train de former un soviet, là, c'est ce qui est en train de se passer. Quand ils ont fait une pétition, ils se sont organisés en soviet pour dire, nous, on marche pas, et nous, on suit pas, hors de question, truc, machin, virez-le, etc., voilà, pour sauver le djihadiste. Pendant ce temps-là, les bicots qui rentrent, les cellules d'Al-Qaïda, de tous les trucs, etc., vous croyez qu'ils observent pas ça? Ils repèrent ces idiots utiles, là. En plus, j'ai lu la tribune des gaziers, là. Il y avait notamment une pute, mais il faut voir ce que c'est. La principale signataire du truc, c'est une espèce de rombière, elle a 50 balais, elle a plein de pognon, elle a une tête à claque, je veux dire, c'est la grognasse qui est pleine d'elle-même, je veux dire, c'est quelqu'un qui s'adore, quoi, ça se voit, ça transparaît, elle s'aime, quoi, vous voyez. Et ben, ces gens-là, ils donnent la main aux djihadistes. Et ils seront les premiers à se faire égorger, d'ailleurs, par les barbus, hein. Ce serait bien fait pour leur gueule, d'ailleurs. Mais c'est un condensé de sociologie française. Un condensé de sociologie française. La profession littéraire qui bavarde en se regardant dans le miroir, en foutant la société en l'air, pendant que des gens sont en train de se vider dans leur sang, enfin des pauvres Français sont en train de se vider dans leur sang en caniveau. Et c'est encore eux à qui on tend le micro, qui ont le droit de s'expliquer, etc., faire des tribunes, etc. Moi, je vous dis, non, je sais pas. Travaux forcés. Purge. Qui veut dire quelque chose là-dessus, peut-être ? Sur Abdallah, notre frère.
À part discuter des modalités de la purge, je vois pas de quoi on pourrait discuter.
Je suis ouvert à cette discussion, d'ailleurs. Mais bon. Non, mais je veux dire, c'est ce qui est quand même nouveau, parce que les Antifa essayent des trucs un peu comme ça. Mais ils sont très... Ils font attention.
Non, mais on le savait, tu vois, que les juges et globalement le monde juridique était à gauche et très très à gauche, on le savait déjà.
Oui, certainement, mais je veux dire, il y a une évolution, parce que les Antifa ont essayé récemment de se porter en soutien d'un djihadiste bon, convaincu de terrorisme, hein, qui est en résidence surveillée et qu'on trimballe d'hôtel en hôtel. Bon. Et les antifas avaient essayé plus ou moins de se solidariser, etc. Ça avait vraiment été très critiqué. Parce que ça passe pas, si vous voulez, dans l'opinion publique, par évidence, quoi. Mais ce que révèle cette affaire, c'est que dans certaines professions, donc que j'ai citées, quoi, ils sont bien au-delà de ce que disent les antifas. Dans leur tête, ils sont déjà dans une autre dimension. Ils ont franchi depuis très longtemps ce type de tabou. Hein. Ils en sont plus là. Eux, pour eux, se porter au secours des djihadistes, c'est moral. C'est ce qu'il faut faire, vous comprenez ? Je vous dis, les antifas font des petits trucs, mais sont prudents, parce qu'ils savent que... C'est dur, ça passe pas forcément très bien dans l'opinion. Y a des groupes, des lobbies, des professions, des cercles sociaux qui n'ont pas ces pudeurs. Qui n'ont plus ces pudeurs. Voilà. Et ce sont des gens auxquels on donne du maître, ils ont une robe, on les voit en photo dans la presse régionale, etc. Alors évidemment, le petit peuple, il se laisse impressionner, il voit des titres... Ils voient des autres, oh là, non, c'est des gens, ils savent, hein, nous on sait pas trop, eux ils savent. Non, non, ce sont des ordures, ce sont des pourris, voilà. Il y a quelques avocats qui sont de qualité, il y en a beaucoup qui sont des ordures. Voilà. Et je parle pas des magistrats. Donc purge. Purge. Ah, pour le coup, là,
moi,
Staline.
Si tu veux, on va discuter de choses intéressantes. Premièrement, avant la purge, travaux manuels pour ramasser des fraises, cueillir du raisin.
Oh, dis donc, c'est utile quoi. Utile.
Oui oui non mais des choses utiles et puis je veux dire leur mettre une pelle dans les mains, une pioche,
oui, oui.
Puis creuser des canals.
Les intellectuels au travail, je suis pour.
Oui. Bah surtout les juristes et compagnie. Hein.
Oui oui. Les profs aussi.
Comme dirait l'autre, c'est quoi déjà la phrase de Coluche ? 50 droits et 50 de travers, un
truc comme ça. De travers.
Bah, moi, je vous propose de mettre les avocats, les magistrats et les profs au travail en leur faisant creuser des canaux en France. Est-ce que vous validez ?
Je valide. Combien de temps ?
Longtemps. Pelle et pioche.
D'accord, mais sur les îles Kerguelen alors ?
Plus tard aussi, pourquoi pas. Alors c'est pour ça aussi. Alors il y a un argument qu'on peut m'opposer quand je dis qu'il faut bazarder les dom-toms, etc. Plus particulièrement la Guyane. Il y a deux arguments exactement sur la Guyane. Il y a un, ah oui, mais il faudrait lancer des fusées. Bon là j'ai une réponse, on prend 5 km de rayon et ça suffit, on fait voler les fusées, d'accord. Mais si on prend par les sentiments, on me dit, ah oui, mais où tu mettras tes bagnes? Et là j'avoue que c'est un argument assez solide pour me faire conserver la Guyane.
N'importe quoi, ça. N'importe quoi. Je veux dire, pendant des années, on mettait les bagnards sur des galères. Tu mets ça en plein air. Qu'est-ce que tu racontes ?
Je vois qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas tous les avantages qu'offre la jungle guyanaise.
Il y a quand même des trucs très rigolos.
Ah oui.
Des petits animaux.
Oui, oui, oui. Des peuplades assez originales.
Bah, on ira acheter des jaguars à
le paludisme.
On les foutra sur les bateaux.
Non, parce que c'est là, en fait, c'est ce que j'aime bien dans cette façon de procéder, c'est-à-dire avec la réouverture du bagne. Je veux dire, moi, c'est un vrai thème, je le défends. Je veux la réouverture du bagne, vous le dites tout de suite, je veux la réouverture du bagne.
C'est le premier à y terminer, donc fais gaffe quand même.
Bah, c'est pas grave, je serai un pionnier à ma façon. Je veux dire. Mais comment dire, le mérite d'abord, c'est que ça a déjà été fait, donc on peut pas le faire. Ça a été fait et ça a été fait sous la Troisième République, donc c'est très bien. C'est une solution républicaine.
Et ça ensuite, forge le caractère.
Ça, oui, en plus, et il y a, puis, les vertus du climat qui sont indéniables, quoi. Je veux dire, et aussi au plan sanitaire. Nous aurons probablement beaucoup de choses à apprendre in vivo sur des spécimens. Voilà. Enfin, bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses positives. Donc, des purges, absolument. Creuser des canaux, absolument. Des bagnes, absolument. En Guyane, tout à fait. Et j'ai déjà les clients. Voilà. Alors faisons-en un thème. La réouverture du bagne. Réouvrons le bagne pour les pourris et les criminels. Quelqu'un vote contre? Non.
Ouais.
C'est comme chez les bolcheviks, tout le monde est d'accord. Allez, on fait une pause musicale et on se retrouve juste après. Thank you. Alors messieurs, deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 17, chronique du confinement. Je vous avouerai que j'en ai plein le dos de cette histoire de virus bidon, etc. Bon, qui existe, mais bon, qui est insignifiant en réalité. Les gens les plus lucides, je pense, commencent à le comprendre, hein, que non, c'est pas l'apocalypse. Non, ils vont pas mourir demain. Bon, je pense que ça va se décanter. Mais bon, j'ai quand même eu envie de parler avec nos participants de ce qui se passe en France. Mais pas en général, hein, pas partir dans tous les sens, simplement un truc très très précis du quotidien, voilà, que j'ai trouvé dans la presse. Et c'est dans Le Parisien que j'ai trouvé ça. Ça m'a paru à l'image de l'ambiance, quoi. Donc je vous lis ça. Alors c'est bien évident, parce que vous le savez, enfin je précise ça, parce que c'est vrai que bon, je n'ai plus attention, mais on rentre dans le mois sacré du Ramadan, n'est-ce pas ? La France est terre d'islam, hein, bien sûr, donc les croyants maintenant sont dans le mois du Ramadan depuis le 25 avril, je l'ai appris comme vous, par la presse.
23, non, c'est pas le
25, j'ai cru, moi. 25. Ouais. Ils hésitaient entre le 24 et le 25, parce qu'ils observent, les bougnoules observent quelque chose.
Ah oui, la lune, oui.
Voilà, c'est très précis, hein. C'est une religion qui est effectivement très rationnelle. Et donc, voilà, donc selon la lune, machin, t'arrêtes de bouffer. Je sais pas le rapport, me demandez pas, il y a un rapport.
Oui, oui.
C'est bizarre un peu. Bon, voilà, c'est... l'incréé, le... Bon, bref. Alors, du coup... Vous qui nous écoutez, qui avez le plaisir, la joie, le privilège de vivre au contact des musulmans, dans la France islamique, eh bien, vous apprenez que votre police, la police républicaine, applique une laïcité qui est une laïcité intelligente, une laïcité pragmatique. Et je voulais rendre hommage à la, comment dirais-je, la diligence de la police française. Alors, je vous livre donc cet article du Parisien. Ce télégramme, qui appelle les policiers du Calvados à intervenir dans certains quartiers uniquement pour, je cite, « les atteintes aux personnes ou atteintes graves aux biens » en période de Ramadan, laisse percevoir une certaine fébrilité dans la hiérarchie policière. Daté du 24 avril, le document que Le Parisien s'est procuré émane du chef d'état-major de la Direction départementale de la Sécurité publique, le DDSP, du Calvados, et s'adresse à tous les services de police du département. Ce commandant divisionnaire indique donner ses instructions au nom du directeur départemental de la sécurité publique. Je cite « Sauf atteinte aux personnes ou atteinte grave aux biens, dégradation par moyen dangereux pour les personnes, de bâtiments, véhicules, il n'y a pas lieu d'intervenir dans les quartiers à forte concentration de population suivant le Ramadan pour relever un tapage, contrôler un groupement de personnes rassemblées après le coucher du soleil pour s'alimenter, est-il écrit. Depuis une semaine, des incidents émaillent certaines banlieues d'Île-de-France et de villes de province. Jeudi 23 avril, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a fait valoir que ces tensions actuelles dans certains quartiers populaires, étaient dues notamment à l'effet de la dureté du confinement. Mais le patron de la place Beauvau, invité sur BFM TV, a assuré que les forces de l'ordre intervenaient systématiquement. Le ministre a par ailleurs condamné les violences en réaffirmant que l'ordre républicain devait être présent partout. Devait, hein, c'est une théorie, quoi. Voilà pour le discours. Mais sur le terrain, les choses paraissent moins claires. Ça, c'est le Parisien qui s'exprime. Tout au moins dans le Calvados, comme l'indique le télégramme. Monsieur le directeur demande à tous les personnels de la DDSP de faire preuve de discernement en la matière afin d'éviter qu'un manquement aux règles de confinement ne dégénère et provoque un trouble supérieur de violence urbaine, peut-on encore lire dans ce document. Et le chef d'état-major de souligner, les opérateurs répondront aux requérants que leur appel est pris en compte et veilleront à ne pas faire de commentaires. Ces recommandations d'extrême prudence se limitent-elles au Calvados ou sont-elles généralisées à tous les départements ? Dans une visioconférence reliant Beauvau au préfet des zones de défense, dont le contenu avait été révélé par le Canard enchaîné, Laurent Nunez,
Arriba.
secrétaire d'État à la sécurité, exprimait le 18 mars son inquiétude de voir les cités au bord de l'implosion, s'embraser si le confinement y était appliqué de manière trop stricte. Je tiens d'ailleurs ici à rappeler que, encore récemment, interrogé sur la question de l'envoi de l'armée dans les banlieues populaires, Christophe Castaner a tenu à dire que cela générerait un embrasement général. Ça m'a beaucoup étonné, puisque les quartiers populaires, comme leur nom l'indique, sont des quartiers républicains. Je ne vois pas exactement de quel embrasement il veut parler. Je ne sais pas, c'est bizarre. Il parle par code, notre ami Castaner. Alors, messieurs, moi, je trouve ça bien, je vous le dis, mon point de vue, c'est, je trouve ça bien. C'est bien que en France, on sache faire preuve de respect pour le culte, hein, pour l'exercice,
pour les croyants.
L'exercice,
voilà, pour les croyants. Contrairement aux les mécréants, voilà, doivent payer.
C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même, il faut quand même séparer le bon grain de livret. Ceux qui pratiquent, qui croient, bon, ont le droit, d'abord, et il faut pas les emmerder au moment, un moment important. Et puis bon, voilà, bon, les blancs.
Oui, finalement, en fait, les flics, ils font ce qu'ils font en temps normal, quoi. C'est-à-dire faible avec les forts, fort avec les faibles. Genre, sur les gilets jaunes, on tape bien à fond. Hein, puis après, bon, sur les bougnoules, les quartiers populaires, donc c'est les quartiers à bougnoules, hein, traduction. Là, par contre, c'est open bar, quoi. Vous, Français, vous restez chez vous parce que vous payez 135 €, je crois. Et ouais. Je crois d'ailleurs aussi que ça a été changé pour la majoration. Je crois que maintenant, la majoration de l'amende, elle est à 400 €. Voilà, c'est fantastique.
Alors, c'est pas tout à fait pareil que d'habitude. Parce que d'habitude, effectivement, bon, ils emmerdent le monde, etc.
Non, là, c'est assumé. C'est assumé.
Prétendument, ils vont aussi chez les bougnoules. N'y crois pas trop. Hein. Mais là...
ils vont tailler des pipes aux grands frères, je crois.
Là, en fait, le truc, là, ce qui est bien, vraiment bien, c'est la politique de l'État et elle est assumée. Enfin, je veux dire, c'est... voilà.
Alors, c'est la politique de l'État et c'est la politique... C'est une politique... C'est la mise en place d'une police du culte, d'une police islamiste qui fait payer l'impôt aux kafirs. Hein,
c'est pas faux. C'est pas faux.
Au dîmi.
Voilà.
Le denier du culte.
Pour le denier du culte en ce mois sacré de Ramadan, afin que les croyants puissent pratiquer leur culte de manière paisible, en étant eux, ils n'auront pas à subir hein, les contrôles des attestations, de savoir si tu es à 1,1 km de chez toi. Non, parce que il n'y a pas lieu de déranger les croyants. Du peuple choisi par Allah, eux n'ont pas cette problématique-là. Par contre, la gendarmerie veille avec les hélicoptères pour surveiller les terroristes.
Même à cheval, attention, c'est même à cheval. Hein,
à cheval, oui, le champion de Bretagne de son obstacle. Le champion de Bretagne de son obstacle.
Oui, c'est encore autre chose. Alors, c'est encore autre chose. Non. Mais les gendarmes, eux, se baladent à cheval. Ils font de la randonnée aussi. Et ils font aussi donc de l'hélicoptère. Parce qu'ils s'amusent beaucoup en ce moment. C'est la grande polade. Pour, ma foi, pour terroriser les dhimmis, hein, les koufars. Afin que les croyants
puissent... Bah oui, mais bon, en même temps, je t'entends bien, mais... il faut bien que le Ramadan soit respecté aussi.
Oui.
Bah oui.
C'est voilà, tellement difficile hein, le Ramadan, faut rappeler.
C'est dur. Hein,
on n'a pas le droit de prendre le goûter. Hein. C'est ça.
Alors, le Ramadan, c'est extrêmement difficile. C'est un jeûne absolument terrible, qui est insurmontable. C'est un jeûne dans lequel, en fait, on décale son repas. Et on le décale pour manger plus. C'est un jeûne où on
prend du poids, ouais.
C'est un jeûne où on s'empiffre et où on détruit son pancréas jusqu'à en choper le diabète.
Ce qui vous expose d'ailleurs au coronavirus.
Ce qui expose tout à fait au coronavirus, hein, puisque.
Et là, il y a un effet vertueux, j'ai envie de dire.
il va y avoir effectivement des comorbidités qui vont se mettre en place chez le peuple choisi par Allah.
Alors, si vous voulez échapper, comment dirais-je, au Ramadan, il n'y a que le cercle polaire, puisque par évidence, de temps en temps, il fait jour tout le temps. Donc, ils meurent d'inanition, ces connards. Donc voilà, c'est.
Ah, Allah n'avait pas pensé à ça.
Eh oui, c'est-à-dire que, tu vois. Non, mais comment démonter l'islam en 3 minutes? C'est-à-dire que, c'est... non, mais. Si les vérités d'Allah étaient les vérités d'Allah, ça s'applique partout sur la planète ou ça s'applique nulle part, on est d'accord. Bon. Sauf que dans le cercle polaire, par définition, ça ne peut pas s'appliquer. Parce qu'il fait jour tout le temps dans certains endroits, donc vous crevez. Enfin, je veux dire, si le ramadan tombe ce jour-là, vous ne pouvez pas bouffer, c'est la fin.
Même plus proche de l'équateur, parce que c'est fonction de la saison. Donc, dans certaines périodes de l'année, tu as des musulmans qui ne peuvent pas pratiquer le ramadan dans certaines régions de Russie.
Tout à fait. Ah oui.
Ils ont des accommodements spéciaux, je ne sais pas sur quelle ethnie exactement.
C'est bien fait.
Oui, c'est comme le Talmud. Hein,
voilà. Ouais, non, mais c'est le cas de toutes les orthopraxies, en fait, vu qu'elles sont généralement totalement inapplicables en ouais, réalité. On va essayer d'enculagailler la moumouche sur le Talmud pour trouver un accommodement raisonnable.
Raisonnable.
Quand tu regardes le niveau physique de certains gendarmes et de certains policiers, ça fait peur, quoi. Je veux dire, tu vois le gras qui dégouline du polo. Enfin,
bah surtout,
vraiment peur,
surtout,
hein.
Surtout McDav, les policières et les gendarmettes.
Hein, oui,
on en parlait un petit peu plus tôt de cette...
Là, c'est la Bretagne, c'est ce que faisait Pierrot. Hein. Pierrot,
oui,
tu veux pas
Pierrot
raconte-nous l'histoire là, du cheval. Pierrot a mal aux dents.
Pierrot a mal aux dents.
Bon, vas-y, Derek, raconte l'histoire du cheval.
Ouais, écoute, on a eu en Bretagne là, un champion de cheval là, qui promenait sa bête pour aller le faire boire à l'étang.
Non, techniquement, je vais être vraiment très précis. En fait, il l'a amené, amené à l'écurie. En fait,
il a ramené à l'écurie, ouais. Il passait devant l'étang. Voilà.
L'étang, ouais. Enfin, en tout cas, il avait. Bon, c'était. Comment,
c'est le chemin qu'il utilise tout le temps.
Voilà,
depuis
c'est
20
une nécessité.
Ans,
c'est une nécessité, c'est pas un luxe. Voilà, c'est tout.
Et là-dessus, les Pandores arrivent, voilà, force à la loi, la République, donc l'espèce de flic avec un physique de lâche, hein, clairement. Et,
Et puis, il faut préciser, hein, c'est les Bleus, hein, c'est les Bleus.
C'est les Bleus. Et donc l'homosexuel sans muscles, mais malgré tout obèse. C'est donc voilà, c'est l'homme et la femme qui est pas
elle est
forcément
pas
énorme,
elle,
mais
elle est pas dégueulasse,
elle est pas énorme, mais elle a des elle est difforme, on peut pas dire les choses autrement, elle est difforme, même si elle est pas forcément très enflée, mais elle est difforme, et donc c'est effectivement Magda, une coupe pour des gens normaux, même pour des femmes normales, même pour des femmes françaises normales, quand tu y mets là-dedans le fond des chiottes de la génétique que sont les femmes flics, les femmes gendarmes, eh bien ça fait ce genre d'aberration de polos qui sont trop larges au niveau des épaules, et qui font sortir des bourrelets de gras absolument improbables au niveau de la taille. Ça fait ça.
Moi, tu vois, je suis d'accord pour mettre des gonzesses dans la police, mais tu les mets en tant que secrétaire et tu leur mets un uniforme sympa.
Avec tailleur.
Des talons.
Ah ouais, oui, mais on est d'accord. Tailleur, voilà, ça, c'est une
voilà,
ça, c'est une politique.
Une belle chemise.
Elles restent dans les bureaux, effectivement.
Voilà. Plus,
effectivement, il faut qu'elles aient un certain IMC.
Totalement.
Ah, bon, oui.
Ah, mais non, mais totalement.
On représente l'État ou pas. Donc là, effectivement, on a des
fonctionnaires
femelles qui représentent la République.
Voilà, c'est ça.
Mais
c'est ça.
Il faudra des fonctionnaires, peut-être des femmes qui représentent la France. Ce sera autre chose. Hein, ce sera différent. Ils appellent à respecter le ramadan parce qu'avec le confinement, ils savent qu'il y a des gens qui sont.
Parce qu'ils sont trop nombreux, c'est les plus forts.
Oui, voilà. Donc, qu'ils n'ont pas envie de faire ce qu'on. Enfin, ils ont pas envie de faire ce qu'on leur dit. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Comme
on a remarqué, oui, d'ailleurs, on n'a pas trop parlé de ça, mais vous avez vu toutes les émeutes qu'il y a. Enfin, je veux dire, enfin, les émeutes, bon, encore que ça va, c'est bon.
Qui sont soigneusement.
Nous, on l'a vu, mais les médias, ils n'ont rien vu, apparemment.
Alors, voilà, c'est assez marrant, parce qu'on a. On a des médias, BFM, etc., qui sont à faire du 24 heures sur 24. Le virus, alors la chloroquine.
Va-t-on mourir?
Ouais, va-t-on mourir? Est-ce qu'on va pas mourir? Bon, ça ne s'arrête jamais. Et quand les bougnoules, etc., font de la chimpanzerie extériorisée, hein, on en parle. Au détour d'une conversation, hein, allez, juste avant qu'on applaudisse les soignants qui sont à Verdun. Hein,
les héros, hein, les héros. Ouais.
Donc, juste avant 20h, pendant 5 minutes, on dit oui, quand même. Ah, excusez-moi, le direct va applaudir. Applaudis. Voilà, bon.
Mais ils font des. Vous déconnez. Voilà. Ils font des directs pour les applaudissements.
Ils font des directs, bien entendu, pour que les jeux. Bien sûr. T'as l'émission de
non mais vous, non mais attendez non mais on parlait l'émission non mais on parlait de la Corée du Nord mais de la Corée du Nord on n'est pas à ce niveau-là
mais l'émission de Zemmour je te parle de ça j'ai regardé une fois là cette semaine justement il parlait des comment ça s'appelle des trucs en banlieue où ça
parle ouais.
Donc il gardait pendant une heure il parlait de pas grand chose quoi du libéralisme etc comment ça sera bon ça s'en fout
on s'en branle
et cinq minutes avant 20h oui alors Éric Zemmour les banlieues etc donc le type se met à dérouler son machin bon c'est très bon on connaît par cœur quoi voilà hein, oui les banlieues etc avant c'était bien on a mis des arabes après c'était pas bien ok hein. Bon ah excusez-moi monsieur Zemmour je vous coupe il est 20h nous allons applaudir la chèvre et voilà et puis après c'est fini voilà, donc c'est
non mais ils font même autre chose en ce moment en termes de propagande ils nous montrent des jeunes de cité qui vont porter les courses
la zakat, j'en peux plus moi je veux dire les mecs ont l'audace ensuite d'accuser la Chine de propagande alors ils font de la propagande mais et franchement avant d'aller fourrer son nez dans les pays des autres faut quand même un peu regarder ce qui se passe chez nous. C'est quand même. Oui, on est dans le soviétisme. J'ai vu ces conneries. Hein, les Arabes, etc. Ils font du volontariat, tu sais, parce que c'est la qualité première des Arabes, ils font du volontariat pour aider leurs prochains, tu vois.
Oui, bien sûr.
Bah, tout à fait. Voilà. Et moi, j'étais là, ah bon ah oui, non, mais regardez, la preuve, on a fait une vidéo. Ah bon, bah, si c'est une vidéo, c'est que c'est vrai, quoi. Ils mettent ça. Évidemment, France 2, ce que vous voulez, il y a des millions de gogos, etc. Mais les mecs, ils sont pas tous pareils, quand même. Et alors, et tu remets une couche comme ça. Les mecs, mais ils en rigolent. Je veux dire, ça devient rigolo. Enfin, je pense que les patrons de la propagande. J'aimerais discuter avec les mecs qui gèrent la propagande en France. J'aimerais vraiment discuter. Vous savez, sur toutes les grandes chaînes, ils ont tout. Les mecs, au bout d'un moment, ils doivent se dire, c'est chiant. C'est chiant, il n'y a jamais rien d'imprévu, quoi. C'est. Non. Tu obtiens toujours le même effet avec les mêmes trucs, tu vois. C'est désespérément la même chose, quoi. Voilà. Tu mets aux Français le bon bougnoule, et la réaction tant attendue a lieu. Les Français sont fiers de leur bon bougnoule, quoi, tu vois. L'exemple le plus caricatural étant, comme vous le savez, le bougnoule ou le nègre qui gagne une Coupe du Monde. Alors là, ça c'est le nirvana, hein, évidemment. Hein. Là, vous ne pouvez plus dire un mot. Hein. Vous ne pouvez pas parler d'immigration, de trucs, de machin. Bah,
surtout quand le bougnoule en question est aussi un nègre. Hein, quand le monsieur
Mbappé qui
est
qui cumule les
un Algéro-nègre, qui est donc un Français exemplaire. C'est Jésus. Hein, c'est Jésus.
Alors, c'est un Français exemplaire, ça c'est sûr. Moi, je compte plus les fois où on m'a dit, de toute façon, toi, toi, t'es pas français, quoi. On m'a dit. On m'a fait comprendre, quoi, que si j'aimais pas les gens marrons, j'étais pas vraiment de mon pays, quoi, et que ma place était probablement ailleurs. Quoi. Je pense que je choisirais un endroit où il fait jour tout le temps. Pour les raisons énoncées précédemment. Moi, je suis sûr qu'on ferait pas chier.
Enfin, les pays où il fait jour tout le temps, il fait aussi une nuit tout le temps pendant un certain temps.
Oui, mais ça tourne. Donc forcément, si tu veux, au bout d'un moment, ça devient létal pour les enculeurs de chèvres. Sauf que, comme l'a bien dit McDave, il y a toujours un truc dans le bouquin, donc on pourra toujours trouver l'excuse, quoi. Non, mais enfin bon, voilà, quoi. Alors, mais les flics, enfin, tu sais, je vais te dire un truc, je voulais discuter, avec, je voulais te dire, hein, parce que tu me parlais, tu sais, de la gonzesse, c'est une rouquine d'ailleurs, hein, en Bretagne. C'est une rouquine. C'est ce qui me file la gerbe, et ça fait le lien
la
avec.
Policière, la
ouais,
flic.
La gendarme, ouais. La gendarmette. C'est ce qui fait le lien avec l'équipe de France. C'est-à-dire que de voir des rouquines, qui ont un phénotype quand même nordique, quoi, défendre cette république juive truffée de nègres, de mulâtres, de races improbables, qui importe tout le tiers-monde, avec du Soudanais qui égorge sous les applaudissements des avocats, etc., qui vient te toiser, toi, parce que tu balades ton cheval, hein, en pleine nature, tranquillement, quelque part en Bretagne, venir te traquer, toi, pendant que les bougnoules mettent la France à feu et à sang. Sous l'œil bienveillant, on vient de le dire, de la place Beauvau.
Et d'Allah.
Oui, et d'Allah. Et donc le pays qui célèbre l'équipe de France, parce que quand même une espèce de négro mort, Mbappé... non. Non. Non.
Excuse-moi, un peu sous la bienveillance du maghrébin d'Espagne, Monsieur Núñez.
Ah oui, qui veille quand même à ce que l'extrême droite ne bouge pas trop, parce que voilà. Ça...
Oui, non, mais c'est l'intérieur, c'est lui qui gère ça, quoi.
Oui, c'est l'Andalousie qui gère les affaires intérieures de la France, on a bien remarqué, oui.
Le Maroc, donc.
Oui, le Maroc, donc voilà.
Oui.
Tout ça manque beaucoup de français, quand même, je veux dire.
Mais... Ben oui, là, en fait, oui, dans cette histoire-là, le français, il est absent. Il est présent
sous forme. RTT.
Il est sous forme. Il est là sous forme féminine, donc pour suppléer l'homosexuel,
ouais.
qui va faire des tracts de français sur la plage ou près d'un étang. Mais sinon, il est absent. Le français, il est là pour payer pour toutes ces races de boue puissent continuer. À vivre de manière normale, et... parce que ces gens-là n'ont pas de problème. Hein. Peut-être qu'ils ont... Ils ont un petit peu moins de clients, mais le trafic continue, ils ont tous leurs trucs, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas plus emmerdés que d'habitude, voire encore moins, puisqu'on on fait en sorte que les forces de police soient disposées sur tout le territoire pour emmerder les Blancs. Donc,
ah oui, là c'est très clair. Oui. Là c'est très 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 clair.
Ah, c'est du terrorisme, hein, qui est en train de se passer. C'est une opération psychologique. Il faut que les.
Non mais
les
ce qui est vraiment bien, peur. C'est un peu comme Charlie Hebdo, c'est l'attentat de Charlie Hebdo ou l'élection de Trump, comment dire, les gilets jaunes et maintenant ça, tu vois. C'est que ça pousse le système, enfin surtout les classes dirigeantes à révéler quelles sont vraiment leurs. Leur sensibilité, leur inconscient, etc., ils réagissent inconsciemment très souvent, et tu vois, si t'as un peu d'instinct, tu t'en doutais, tu les identifiais, tu vois. Mais avec les gilets jaunes, on a vu, par exemple, bon, c'est revenu très fréquemment, mais... parce que les gilets jaunes, il y a eu un caractère ambivalent, parce qu'il y a eu aussi des crasseux d'extrême-gauche qui se sont greffés, qui ont foutu beaucoup la merde, etc., bon, d'accord. Mais il y a quand même eu, on a quand même vu la haine, en fait, du petit blanc, quoi. Ça a vraiment été clair, limpide. Et ce qu'on voit là aussi, avec tout ça, quoi, le fait que t'exemptes les bougnoules qui sont en train de pratiquer leur fanatisme, en fait, hein, et qui tuent des flics, parce que, rappelez-vous, tout le monde a oublié ça, mais à la préfecture de police de Paris, un bougnoule, enfin, un antillais converti à l'islam, a assassiné des flics durant ces mois. Voilà, bon, bon, voilà, c'est-à-dire que même les flics tombent sous les coups de l'âme de la vermine djihadiste, quoi, d'accord? Bon, et vous avez les avocats qui sont là, je veux dire, on oublie tout, mais vous avez les avocats qui sont là pour Romans sur Isère, sur une affaire de meurtre, mais non, mais c'est scandaleux, vous pouvez pas parler comme ça, c'est notre frère. On est dans une dystopie qu'on ne pouvait même pas annoncer, que même Ferdinand Céline ne pouvait pas annoncer, d'accord, okay. Ça n'a même pas été annoncé, jamais. Ferdinand Céline a eu un instinct très sûr, il nous a dit, voilà, en gros, ça va se passer comme ça, quoi. Mais dans le détail, il n'aurait jamais pu imaginer qu'on en arrive à ce degré de subtilité, de sophistication dans le vice et dans la torture, quoi, hein, dans le supplice, quoi. Et moi, je suis... enfin, je suis face à ça. Moi, je ne vois pas comment on ne peut pas, si vous voulez, devenir totalement révolutionnaire, quoi. Moi, je vois pas comment on peut pas vouloir la révolution totale. Face à ça, qu'est-ce qu'on a ? D'abord, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Deuxièmement, y a-t-il seulement quelque chose dans ce qu'est devenue la France qui vous donne envie même d'être modéré dans vos élans de colère ? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Non ? Non, il n'y a plus rien qui me raccroche, quoi. Je veux dire, peu importe l'élan destructeur, tout élan destructeur sera, par définition, une bonne nouvelle en France, quoi. C'est ce que je pense, hein. Voilà, et je ne suis pas d'un naturel nihiliste du tout, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui ne croit en rien, au contraire. Mais je fais un constat. Je fais un constat...
Ouais, je pense que tu fais un constat qu'a pu faire certains Joseph, hein, il y a quelques années, hein, mais... sur une certaine par rapport à une situation un petit peu compliquée, est-ce que vous voulez la guerre totale ?
Je veux la guerre totale.
Voilà.
Je veux la guerre totale. Je veux tout de suite. Moi, je veux la guerre totale. Je veux la guerre totale.
Total and Krieg.
Avant de nous séparer, je voulais parler un petit peu de quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, au moins c'est moi qu'on puisse dire, c'est de Robert Ménard, en fait. Pas particulièrement de lui, mais du souvenir du jour de la déportation. Donc en fait, c'est la religion en fait antifasciste en place, et sans même être nazi, vous avez pas besoin de nazi, national-socialiste, fasciste, vichiste, nostalgique de Pétain ou quoi que ce soit, même si vous êtes quelqu'un de normal, et même si vous, peut-être, vous êtes gaulliste, après tout, ou de droite, peut-être que vous êtes, vous êtes en désaccord avec l'évolution générale de la société, mais contre vous sera brandi systématiquement l'antifascisme, l'antinational-socialisme, et bien évidemment le culte civil de la religion de l'Holocauste et de celui de la déportation. Et on pourrait se dire qu'il aurait été utile de développer des anticorps, hein, face à ce virus, puisqu'on parle de virus, hein, en ce moment. Et non, ce n'est pas du tout à la mode en France, et le peu de personnes qui s'y livrent sont de toute façon marginalisées. En revanche, la droite établie, même celle qui se prétend la plus anticonformiste, en fait reprend... cyniquement, vicieusement, les mots d'ordre des communistes jadis. Et Robert Ménard, maire de, comment dirais-je, de Béziers, qui est une ville racialement complètement sinistrée, enfin bon, ça n'existe plus sur la carte, se flatte en fait d'être une serpillière des Juifs. C'est pas nouveau, mais voici ce qu'il nous dit sur son compte Twitter aujourd'hui. « Ayons tous une pensée, aujourd'hui, pour les victimes de la déportation. N'oublions jamais que cette horreur a été possible à cause de renoncements successifs. La barbarie s'installe quand nous fermons les yeux. » Et donc c'est Robert Ménard citant Emmanuel Ménard, donc le couple se rendant coupable collectivement du crime, avec une photo éculée donc de bandits communistes derrière des barbelés. Alors, messieurs, la religion de l'Holocauste, les camps de la mort, etc., bon, bah, c'est plus que jamais d'actualité à droite. Chez les antifas, bon, c'est sûr, à gauche aussi, mais surtout à droite, en fait, hein, on se rend compte qu'à droite, c'est très important... d'abord de communier avec les bobards de l'Union soviétique, les bobards de la juiverie, et puis surtout les bobards qui permettent de nous remplacer par des nègres et des bougnoules. C'est quand même très important, ça me mettrait mal à l'aise de le contester. Alors, votre point de vue là-dessus, sur ce tweet, jour de la déportation, 8 mai 45 aussi en gestation, j'ai vu que Marine Le Pen était particulièrement angoissée à l'idée que peut-être il n'y aurait pas de personne pour poser de gerbe au pied de la stèle le 8 mai pour célébrer la victoire des Juifs. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors moi, j'ai fait le tour à peu près des responsables du Front National qui ont fait un petit caca sur Twitter. Bon, ils ont tous fait leur petit caca pour dire finalement c'était affreux. Voilà. À l'exception quand même de Marine Le Pen, pour l'instant en tout cas, je crois qu'elle ne s'est pas exprimée sur le sujet.
Ça ne saurait être.
Ouais, elle devait cuver.
Ouais, c'est
oui,
ça.
Peut-être qu'elle sort de boîte, hein, c'est possible.
Ouais, donc, elle a perdu son smartphone dans les chiottes.
Oui.
Ah non,
j'allais dire un truc dégueulasse, excusez-moi, non, je me retiens.
Oh, c'était déjà pas mal dégueulasse pourtant.
Et non, bah voilà, finalement, là, pour le coup, vu que tu l'as cité en début d'émission, moi j'envoie aux excellentes vidéos de Vincent Renoir sur le sujet.
Totalement, totalement, totalement.
On peut pas utiliser comme ça. Ça me fait penser à la phrase de aussi à la phrase de Soral, l'école où t'as appris à mentir, c'est eux qui l'ont construite. C'est vrai que ils se disent, oh alors on va se faire une petite stratégie, pas piquer des hannetons, on va prétendre être du côté des juifs, hop, on va la jouer fine et vous allez voir le jour où, ouais mais en fait le jour où vous serez complètement inféodé aux juifs. C'est une stratégie de merde.
je pense pas que
non,
Robert
mais le pire,
Ménard
c'est ça.
Prétende.
C'est ça.
Enfin, pas Robert Ménard parce que Robert Ménard lui il Robert Ménora, donc lui, forcément, il est convaincu à la cause, quoi. Mais il y a des petits malins qui pensent qu'ils vont essayer de roubler les juifs plus que les juifs nous roublent.
Il va essayer de juiver les juifs. Oui,
attention, hein, sur le terrain de la déportation, messieurs. Quand même.
Oui. Ah, c'est comme s'ils allaient sur un terrain de basket pour s'en prendre à Michael Jordan, quoi. C'est pas possible.
Alors oui, les blancs qui essayent de dire oui. De se faire une place au soleil pour dire que oui, quand même, les blancs ne devraient pas trop se faire exterminer par des nègres et des bougnoules. Et pour ce faire, ils essaient de faire des petites courbettes devant la religion de l'hologramme. Eh bien, sachez que ça ne marche pas. Hein. Tout ce que vous récolterez, ce sont des crachats de la part des juifs et de la part des antisémites. Nous allons vous cracher à la gueule.
Ah oui, nous allons vous cracher.
Ah, mais le verre tout à fait copieux. Hein.
Je me souviens d'un certain opportuniste, Manuel Valls, hein, qui voulait être plus juif que les juifs. Alors lui, niveau serpillère,
ah ouais,
puissance 1000. Hein.
Il a un regret, lui, hein, dans la vie. Hein,
ouais, c'est... bah je crois que ça ne lui a pas trop servi. Hein. Donc si vous commencez à être le larbin des juifs, regardez où est-ce que ça finit, quoi.
Oh, il essaie de revenir, hein. Il essaie de se placer. Là.
C'est assez même. Comment dire, et vous savez quoi, mon sentiment là-dessus sur le retour de Valls, parce que si nos auditeurs ne savent pas, Valls intrigue.
Il a l'impression d'être en prison, il veut sortir.
Ouais, voilà, non, mais en plus, bon.
Il a l'appel cul des Gypsy Kings.
je veux dire, ce qui est intéressant, ce qui est très révélateur, c'est comment on est vraiment dans une ère cosmopolite. Il y a une relecture d'ailleurs à faire sur l'histoire française, parce que la Révolution française, c'est quoi? C'est l'État-nation à l'origine. On peut parler des intrigues, de la franc-maçonnerie, de tout ça, bien sûr. Mais il y a une impulsion quand même. C'est l'État-nation, quoi. C'est-à-dire, le peuple s'approprie sa destinée et règle ses affaires sur son territoire. Ouais, bon, c'est ça. Je dis pas que c'est ça. Je dis pas que c'est ce que ça a donné. Mais je dis qu'en théorie, c'est ça. Et c'est marrant parce qu'on est dans une république, parce qu'on nous parle sans arrêt de république. Hein, c'est république matin, midi et soir. Qui se comporte comme l'ancien régime finissant. C'est-à-dire que tu as des types, ça me rappelle par exemple, rappelez-vous, Necker, ou le premier ministre de Louis XVI, ouais, c'est des gens qui étaient originaires de Suisse, genre, ils recrutaient un petit peu les talents qui existaient à l'époque, mais c'était un système complètement internationalisé, quoi. Et pareil pour les mariages, mais là, de bien avant, c'est-à-dire que l'aristocratie française, qui était une aristocratie germanique, pour l'essentiel, ne se mariait qu'à d'autres familles germaniques qui avaient conquis le reste de l'Europe à la faveur des grandes invasions. Donc ça donnait les mariages de famille, etc. Bien sûr, c'est à grands traits ce que je dis, hein. C'est pas exact dans tous les détails, mais bon. Et on voit Valls, comme ça, oh tiens, allez, je vais essayer de devenir maire de Barcelone, il se marie à une milliardaire, bon, il franchit les Pyrénées. Ça tourne pas comme il veut. Ah, pff, au bout d'un an, il en a marre. Il veut revenir. Il s'imagine déjà ministre. Et là, les Macron, et les conseillers de Macron, en fait, qui jouent avec lui, parce que c'est clair. Là, on voit des chats qui jouent avec une souris. Parce que qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, en fait? Ils cherchent à attirer Valls dans un jeu, parce que ce mec est sans intelligence, Emmanuel Valls. Ils cherchent à l'attirer dans un jeu qui consiste, en fait, d'abord à l'humilier, parce que c'est le mec qui demande, c'est le quémandeur, il quémande un rôle de pouvoir, qu'on peut d'ailleurs lui céder, mais un rôle insignifiant. Et surtout, par la suite, comment dirais-je, d'en donner à un autre, finalement, mais tout en disant, bah, vous voyez, finalement, on donne des postes, mais on pourrait le donner à Valls, qui est un mendiant, mais on le donne à celui-là, mais rassurez-vous, on peut lui reprendre demain sans aucune difficulté. Donc en fait, il s'agit, en réalité, d'affaiblir, d'abaisser le niveau général. Et je trouve que cette République a pour art consommé de tout rabaisser. C'est extraordinaire. Normalement, un État se doit de tout grandir, et ces gens arrivent simplement par leur médiocrité à tout abaisser. Et donc, effectivement, du coup, dans un tel contexte, Valls devient un candidat à sa propre succession, quoi. Voilà. Mais, en toute sincérité, je ne crois pas qu'ils nommeront jamais Valls, même pas par calcul politicien, parce que ça serait la muleta, quoi. Sans mauvais jeu de mots, puisqu'il vient effectivement de Catalogne. Mais ça exciterait beaucoup trop la plèbe. Et je ne crois pas que Macron soit idiot à ce point-là. Voilà. Mais c'est marrant de jouer avec lui, et je vois ce qu'ils font, quoi. Voilà. Mais bon, c'est l'état de la France, quoi. Vous voyez, voilà, donc des métèques, des vagabonds préside aux destinées du pays, quoi. Dans l'indifférence la plus totale.
Des royalistes fanatiques en Espagne,
c'est
qui
ça.
Sont
les
plus fervents républicains une fois qu'ils passent la frontière.
Ouais, alors par contre,
Manuel Valls est assez impressionnant, pour le coup.
La seule constance de Manuel Valls, outre le fait qu'effectivement, comme tu l'as dit, il est royaliste.
L'amour des juifs.
C'est l'amour des juifs. Voilà quelqu'un qui croit sincèrement et de toutes les fibres de son corps en la suprématie des juifs sur cette terre. Alors ça, c'est extraordinaire. Voilà un homme qui ne varie pas sur cette question. Sur toutes les autres questions, il varie. Hein. Il rouge, noir, blanc, il changera d'opinion comme de couleur. Mais alors, en revanche, sur le droit fondamental des Juifs à établir une tyrannie hébraïque sur la planète, alors, Valls est un convaincu, c'est presque, je dirais, un guerrier de la suprématie juive. Impressionnant. Bon, voilà, je disais ça parce que, bon, on s'était un peu éloigné, parce qu'on était parti de...
On est parti sur Tartampion,
là, qui règne sur...
On est parti sur les autres qui font du... Comment ça s'appelle ? Qui font leur catéchisme choatique...
Enfin, on est très au sud, parce que quand on part de Ménard avec sa barbe de rabbin, là, qui règne sur Béziers...
Il y a Odoul aussi.
Voilà, il y a Odoul. Bon,
oui, il y a Chenu aussi.
Ouah, mais tout ça est quand même très brun, c'est très étonnant quand même, et donc, puisque je parlais de Narbonne, donc de la conquête islamique du sud de la France, c'est bon,
Royaume juif de Septimanie.
Oui, voilà, bon, c'est quand même un peu usant pour les gens qui sont bien nés, quoi. Voilà, c'est un peu fatigant d'avoir toujours les mêmes intrigants qui ont tendance...
C'est fatigant, effectivement, pour les gens qui, dans leur arbre généalogique immédiat,
n'ont aucun mort à se reprocher.
Aucun mort à se reprocher, et ont des gens qui travaillent dans les champs, hein, des paysans, des bons paysans, des bons Français.
Tout à fait.
Des Robert Ménard, lui, oui, ses ancêtres, eh bien, ils étaient là à se poser des questions de savoir quel domestique arabe ils allaient avoir en Algérie, parce que... C'est des questions terribles. Hein.
Alors, Ménard...
Est-ce que ce sera Fatima ou est-ce que ce sera Malika ?
Je crois que c'est le pire.
C'est très difficile.
Je crois que c'est le pire. Tu pointes un truc qui est très vrai. C'est-à-dire que ce mec-là vient d'une tradition pied-noir. Ok, bon, je dis pas que tous les pieds-noirs étaient comme ça, parce qu'il y avait un prolétariat pied-noir, etc. Mais il y avait quelques personnes, enfin, quelques familles assez aisées là-dedans. Bon, très bien. Bon, il n'y a pas de problème à être aisé. Mais je redoute le fait que peut-être, dans le cas de Ménard, il y ait une nostalgie coloniale. Je ne crois pas me tromper en réalité, mais bon. Une nostalgie coloniale, mais qui est perverse. Pourquoi je dis ça ? On peut avoir une nostalgie coloniale au final en disant « Ah ouais, mais c'était tellement bien quand la France ou quand la Grande-Bretagne, vous voyez, au 19e siècle, etc. » Bon, une espèce de petite nostalgie, etc. Pourquoi pas ? Mais en France, elle peut avoir des effets extrêmement pervers. Et je crois que c'est ce qui se développe chez Ménard. J'ai écouté Ménard, vous savez, à la convention de la droite, et ce type-là s'est adressé à un public qui, en fait, est très anti-arabe, en fait, très anti-immigration, très anti-islam même. Hein. Peut-être même beaucoup plus anti-islam qu'anti-arabe, en réalité. C'est pas un public forcément nécessairement raciste, mais un public, à tout le moins, qui est culturellement sceptique quant aux qualités de l'islam, quoi. Et Ménard leur a fait un prêche multiculturel. Il leur a dit « l'immigration, c'est de la merde ». Texto, hein, pour le coup, je reconnais ça. Il n'a pas biaisé. Il a dit « voilà, la remigration, c'est du flan. Venez avec moi à Béziers, allons parler à des familles d'Algériens qui sont établies à Béziers depuis 3 générations, on en reparlera ». Et le mec disait « c'est facile de parler de la remigration ici, machin, donc à la convention de la droite, c'est beaucoup plus difficile de parler de ça ». Et moi, j'avais envie de lui dire « mais l'inverse est vrai aussi ». C'est facile de caresser le bougnou dans le sens du poil dans la banlieue de Poitiers, dans la banlieue de Béziers, dans la banlieue de Poitiers aussi d'ailleurs. C'est peut-être un peu plus difficile de venir parler en face des Blancs, en leur parlant comme ça, des Blancs qui sont conscients de ce qu'ils sont. Moi, j'aurais eu ce mec-là en face de moi, j'aurais craché la gueule. J'aurais dit, écoute, ta soupe à base de bougnoule, tu vas la faire chez toi, au bord de la Méditerranée, mais tu viens pas me faire chier ici. Et personne n'a eu les couilles de lui dire. Ça, ça pose problème.
Ouais, ça pose problème. Ça, ce qui pose problème, c'est comment dire. Ces gens-là forment un bruit ambiant, tu vois, un bruit ambiant.
Voilà. Mais ils tirent vers le bas.
Ils tirent vers le juif.
C'est lié. Regardez, ceux qui nous croient pas, genre ceux qui nous écoutent et qui disent bon, d'accord, ok, ils ont raison, l'immigration, un truc comme ça. Ouais, mais quand même sur les juifs, ils forcent un peu de ça. Regardez, c'est sous votre nez. Si vous ne faites pas le rapprochement, regardez ceux qui le font pour vous. Ménard fait le rapprochement entre l'assimilation des bougnoules et les juifs. Automatiquement, c'est lui qui le fait. Je veux dire, si vous n'écoutez pas ça de notre bouche, écoutez-le de la leur. Ils vous le disent. Ils n'ont pas de pudeur sur le sujet. Au contraire, ils sont très, très, très volubiles, quoi. Voilà, ils vous le disent, voilà, on aime les juifs. Donc on a Robert Ménard qui aime les juifs, sa femme qui aime les juifs. On a Odoul qui nous dit, voilà, permettez-moi de le citer, « N'oublions jamais ce que cela fut. N'oublions jamais les victimes et héros de la plus terrifiante opération de destruction de l'homme par l'homme. N'oublions jamais toutes celles et tous ceux qui ont disparu dans la nuit de la barbarie et le brouillard de l'indicible. » Bon, il y a tout. Bon, Julien Odoul. Odoul, voilà, donc l'homosexuel, voilà, qui était menacé de mort par tous les bougnoules parce qu'il avait subodoré la présence d'une femme voilée dans le conseil régional où il siège, quoi. Bon, voilà, alors il nous ressort le refrain, etc. Il pense en sortir comme ça, mais on se fout de qui ? Enfin bon, voilà, bon, je veux dire, écoutez, la droite antifa, ça marchera pas, ok ? Vous n'aurez pas les clés du pouvoir en mendiant, vous n'êtes pas des juifs. Ça ne marche pas comme ça, vous voyez. Pour être un mendiant et avoir le droit d'accéder au pouvoir, vous devez d'abord être une dans les bons petits papiers des juifs et être effectivement une minorité mendiante. Or, les blancs ne sont pas une minorité, pour commencer, et ne sont pas des mendiants. C'est-à-dire, si c'est votre univers mental, c'est d'être un mendiant qui requiert l'autorisation de pouvoir peut-être participer à, vous êtes une merde. Vous êtes une merde, et les mêmes,
ça se prend. Une merde.
Mais bien sûr, non, mais en plus, c'est pas mais dans
si
notre.
Si quelqu'un vous donne le pouvoir, c'est que c'est pas le pouvoir.
Mais tout à fait, c'est pas notre psychologie profonde. Ce n'est pas notre psychologie profonde. En plus, moi, quand je vois au RN, les mecs sont en train de chialer sur l'Holocauste, absolument tout, en attendant la guerre d'Algérie, parce qu'ils ont accepté l'Holocauste, demain, ce sera la guerre d'Algérie, c'est une question de délai. Hein. Bon, ensuite, ils vont dire, ah oui, mais quand même, Jeanne d'Arc, etc. Non, Jeanne d'Arc, elle combattait l'arme à la main parce qu'elle refusait. Ces mecs acceptent tout. Donc, entre accepter et refuser, il y a un univers, quoi. Donc, vous êtes de quel côté ? Du côté de ceux qui refusent ou ceux qui acceptent ? Moi, je suis du côté de ceux qui refusent.
Je pense qu'ils sont du côté effectivement, de la commémoration de la Shoah et de l'homosexualité.
C'est, et d'à peu près tout le reste, régime végan, tout ce que vous voulez, quoi. C'est...
Oui, 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 aussi. Oui, les animaux aussi. Brigitte Bardot, ça.
Bref. Alors, journée de la déportation, est-ce que vous auriez un mot ou un son à faire ?
Salut.
Effectivement.
Ouais, pas mieux ?
Oui, je tenais à dire que J. William Goldnadel est un patriote français. Voilà.
Comme meilleur à vivre, hein, depuis Elat.
Oui, les deux s'apprécient beaucoup.
Ouais, quelqu'un est allé voir, vous savez, le compte Twitter de Damien Rieu. Vous savez, vous connaissez Damien Rieu. Et alors, en fait,
Oui, la serpillière.
ils ont regardé les amis, enfin, qui était abonné, etc. Et on m'a dit, c'est ahurissant. Vous pouvez tous vérifier, c'est pas moi qui invente, hein, vous pouvez aller regarder Twitter. C'est ahurissant le nombre d'étoiles de David. Vous tombez de votre chaise, quoi. C'est à pleurer. C'est à pleurer. Donc, je sais pas de quel. Enfin, peut-être que Damien Rieu défend l'identité juive, je ne sais pas, moi je suis pas tout à fait au courant, je ne connais pas. Mais très clairement, ça penche lourdement du côté du fin fond de la Méditerranée. On n'est pas du tout dans les forêts de chênes. Hein. Si jamais vous avez des doutes. Voilà, enfin, c'est des drôles. Tout ça est très bizarre. Je sais pas, c'est bizarre. Une époque bizarre, messieurs. Une époque bizarre.
Ben, c'est surtout que le centre d'intérêt de tout ça, oui, c'est plus, effectivement, on se préoccupe plus de Sderot,
Oui.
qui est proche de Gaza, effectivement, qui a des problèmes, hein, avec
Des fois, il y a des
des
roquettes qui
Arabes.
tombent, alors bon.
On se préoccupe plus de ça que du fait que
Nous
oui,
sommes
que la
envahis par des
population française
nègres.
devienne marron et qu'il soit enfin oui que le territoire français soit bientôt administré par Boko Haram libano-antillais. Ça,
Oui, Médéric, faut pas oublier que Israël est en première ligne contre
ah oui,
l'islamisme
c'est
et
vrai.
que si tu veux défendre la Tour Eiffel et le Champ de Mars, faut t'engager dans ça là. Je pense que ça me paraît
Ah
évident.
non, tu peux pas t'engager dans de salle parce que tu
Alors
es un
non,
goy.
ah oui, mais tu
on peut
peux
pas
ouvrir les lumières
s'engager,
le vendredi, ça c'est bien.
tu
Non,
peux payer par contre.
si on, oui, alors, il faut payer, il faut payer. Donc, je vous rappelle que l'association pour le bien-être du soldat israélien est une association française, hein,
républicaine et laïque.
Ah non, mais.
Oui, c'est une association française
Et
légale, hein,
oui, sûre d'elle et dominatrice,
quand
j'oserais dire.
même. Donc vous pouvez donner. Vous pouvez aussi soutenir des patriotes français comme Monsieur Verlaine Jenny, qui sont des
Sans
nègres,
français.
très nègres, qui ont pour unique préoccupation la prolifération des nègres, qui savent dire bonjour, merci, au revoir. C'est ce qu'on appelle des patriotes, qui sont mis en avant
Oui,
par
mais
Monsieur.
aussi la promotion d'Israël, c'est quelqu'un qui promeut quand même Israël.
Oui, ça va de soi. Mais non, mais en tant que blanc, pour être un bon blanc
Ah,
comme il faut,
oui.
il faut que, enfin, votre but
Il
est
faut
de
mourir pour
soutenir
Israël.
vers
Voilà.
votre but est de soutenir Verlaine Jenny, c'est-à-dire qu'il va mettre en avant l'identité française
Positive,
pour les
l'identité française
Français,
positive,
mais
c'est-à-dire une identité
de manière
inclusive.
positive, voilà, positive et inclusive, et qui va effectivement être préoccupé par le sort de cette ville martyre de Sderot, qui devrait être notre préoccupation à tous. Hein, sur la préoccupation de l'Occident.
En sachant qu'on peut quand même faire des pauses de temps en temps, parce que bon, c'est vrai que Zderok c'est important, mais on peut quand même faire des pauses des fois et rappeler quand même le martyre de Ranour-sur-Glane. C'est possible aussi ça.
Oui, les n'oublions pas enfin, ces pauvres Syriens gazés par Bachar al-Assad qui gaz son
Ah!
peuple.
Les gars, Fulbert,
Oui.
je passe par chez toi.
Passe pas chez moi, je t'en prie.
Henri Kishka, l'un des derniers survivants belges des camps de concentration nazis, est décédé.
Ouais, belge, tu avances un peu vite là.
Ah, je cite la presse, le soir, un de tes journaux préférés, j'en présume. L'un des derniers survivants belges de la Shoah, Henri Kishka, est décédé samedi soir à l'âge de 94 ans. Un petit coronavirus microscopique a réussi là où toute l'armée nazie avait échoué, a indiqué son fils Michel Kishka sur Facebook. Mon père avait survécu à la marche de la mort, mais aujourd'hui a pris fin sa marche de la vie. Henri Kishka est né à Bruxelles en avril 1926, à Bruxelles, dans une famille juive d'origine polonaise. En 1918, son père a fui la montée de l'antisémitisme en Pologne. Donc déjà en 1918, apparemment, l'antisémitisme y montait en Pologne, je ne savais pas, mais... Et s'installera à Bruxelles. Sa mère, elle, est arrivée en Belgique en 1924. Lorsqu'il a 14 ans, en mai 1940, la Belgique est envahie par les nazis. Josek, son père, décide que la famille doit quitter la Belgique. Ils prennent donc la direction du sud de la France. Cependant, ils seront arrêtés en chemin, puis retournent à Bruxelles en 1942. Henri et son père sont déportés. Il connaîtra notamment Sarkao, Klein, Margersdorf, Tarnowitz et Auschwitz. En janvier 1945, face à l'avancée de l'armée rouge, lui et son père sont contraints à une marche de la mort.
Sur 5000 il a survécu, donc, c'est ça?
Oui, oui, mais il est mort oui, en survivant, en marchant, c'est compliqué. D'accord. Sur 5000 déportés, 750 survécurent, dont Henri et son père Josek. Bon, il ne donne pas les dates de mort exactement, hein. Bon, bref. De sa vie, il a fait un combat pour le devoir de mémoire et n'a cessé de raconter son histoire et son calvaire, entre autres à des élèves, afin de les sensibiliser à cette période de l'histoire. Alors, Fulbert, bon, ton compatriote est mort, je sais que tu es ému. Il a tenu à sensibiliser la Belgique face aux crimes du national-socialisme. Hein, donner du travail aux Juifs, c'est quand même particulièrement violent. Qu'est-ce que tu as à dire je t'imagine quand même assez bouleversé par cette perte. Qu'est-ce que tu veux nous en dire? Si tu as à dire à quelque chose de ces nombreux Juifs qui ont tenu après la guerre à témoigner du calvaire qui était le leur en Belgique occupée.
Bien sûr, déjà, bon, ben... Il y a un truc qui me fait rigoler, c'est la fameuse marche de la mort. Bah, il a fait comme Elie Wiesel, quoi, hein, avec son père qui claudiquait, mais qui a survécu aussi. Mais enfin, passons. Il a travaillé pour la mémoire, il a fait les écoles. Putain, c'est de la pédophilie mémorielle, ce truc. Il faut être sérieux, quoi. Allez. Et puis maintenant, il atteint 94 ans. Et on dit, c'est un petit virus, dit son fils, là, qui a eu raison de lui. Ouais, c'est lui qui a eu raison de nous et de nos gosses, oui. Ça semble quand même un petit peu plus juste. Bon, 94 ans, si moi je respire encore à 94 ans, je retire tout ce que j'ai dit. Mais je suis certain que je serai crevé bien avant ça. J'ai pas fait la marche de la mort, j'ai pas fait Auschwitz, j'ai fait aucun des camps géographiques dont les noms ont été cités que je ne connaissais même pas. Rien de tout ça, mais je suis certain que je n'arriverai pas à 94 ans. Mais bon, enfin voilà. Alors, on a vu les couillons de politiciens, surtout de gauche, avec en tête, vous ne le connaissez pas, vous êtes français, vous connaissez les vôtres, moi je connais les miens. André Flahaut, qui est une espèce d'obèse rouge, hein, qui a un message... Au vieux qui est crevé, non, il envoie le message à l'AFP, évidemment, à la URI, là. Tu vois, que l'RTBF et d'autres s'empressent de reproduire naturellement. Mais bon, je ne vais même pas vous lire son message, tellement c'est baveux, c'est faux cul, c'est... Enfin, c'est un peu comme Robert Ménard de son côté, quoi, quelque chose comme ça.
Une communion.
Enfin, ça en fait un de moins. Oui ?
Non, je disais une communion, Oh là 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 là. Donc bon, alors il faut parler de la marche de la mort parce que tu dis, tu passes un peu trop
vite. Apparemment, ça préserve. Hein.
Bah en fait, oui. il faut savoir une chose. Il y a un témoin qui existe, qui s'appelle Léon Cohen, qui a participé à cette marche de la mort. Il a écrit sa biographie, dans laquelle il affirme avoir participé en fait à ce qu'on appelle un Sonderkommando, donc un commando spécial. Dans lequel il était chargé de débarrasser les chambres à gaz des corps des juifs gazés, bien sûr. Alors, c'est assez cocasse, hein, je vous passe les détails. Parce
oui,
que
c'est quand un type vous dit ça, vous pouvez être sûr, que c'est de l'improvisation. Hein,
Oui, parce que bon, quand on sait au plan sanitaire ce que ça implique et quand on voit comment ils vous racontent ça, vous rigolez. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, et voilà, qu'il incinérait les corps, etc. Très bien, d'accord. Bon. Et alors, arrive le mois de janvier 1945, l'armée rouge arrive en Pologne, se rapproche des camps de concentration d'Auschwitz, etc. Les Allemands s'apprêtent à se retirer. Et comme vous le savez, c'est un camp qui est sous la garde de la Allgemeine SS, donc ce qu'on appelle la SS générale, qui a toute une série d'obligations, de tâches, de fonctions, etc., et qui s'occupe de l'administration de ce camp. Très bien. Donc, ils s'apprêtent à partir, et ils disent aux Juifs, bon, bah, c'est simple, ceux qui ne peuvent pas marcher, ils sont malades, ils sont trucs, bah, vous attendez l'arme, vous attendez les Soviétiques, c'est tout, voilà, vous restez là, vous attendez. Ils n'ont pas achevé, hein. Ils auraient pu les achever, mais c'est très clair, il n'y a aucun témoignage qui dit, voilà, ils ont achevé les blessés, trucs, non, 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 ils les ont laissés sur place, etc. Bon. Et notre Léon Cohen s'est vu signifier, alors qu'il appartenait à soi-disant ce un témoin de première main, imaginez le génocide. Alors, il s'est vu notifier l'interdiction de suivre les SS. Ils lui ont dit non, non, vous venez pas avec nous, vous restez ici, vous restez à Auschwitz, vous attendez l'armée rouge. Curieux, vous en conviendrez. Bon. Sauf que Léon Cohen, il est pas d'accord. Il n'a pas envie de finir entre les mains des communistes. C'est bizarre, hein. Et visiblement, l'appel de la Russie, bon, je sais pas, ça lui parle pas. Et en fait, il force le passage pour se glisser dans la colonne de prisonniers qui suit les SS dans leur retraite. Donc, voilà des gens, des juifs, comme Léon Cohen, qui ont été des témoins oculaires du génocide officiel à Auschwitz, qui ont participé, pardonnez-moi l'expression, à l'écarissage, qui font tout pour suivre les SS vers l'Allemagne pour ne pas tomber aux mains des bolcheviks. C'est mais... assez curieux. Et ça, ce que je vous dis là, c'est pas moi qui le dis. Le fait qu'ils se glissent dans la colonne de prisonniers guidés par les gardiens de la SS vers le plan de repli, c'est Léon Cohen qui le dit lui-même dans sa biographie. C'est très important à relever. Donc, les incohérences...
Il n'est pas le seul, si je peux me permettre, si tu as terminé.
Oui, oui, oui.
Parce que Elie Wiesel lui-même, le grand béni oui de Shoah, l'explique. Tout cela dans la version non expurgée de son livre intitulé « La nuit ». Et il explique dans les grosses lignes que son père, qui était à l'infirmerie du camp d'Auschwitz, ne pouvait pas suivre les Juifs qui partaient, si je me souviens bien, c'était ou Buchenwald ou Mauthausen.
Ouais.
Je crois Buchenwald, mais je ne suis plus très sûr. Et le type, le père là, de Wiesel a quitté l'infirmerie, s'est fait passer pour valide, grosso modo, parce que son fils, Elie Wiesel, lui avait promis de l'aider à faire le trajet en l'aidant physiquement. Quoi. Et tout ça, c'est dans la nuit, mais dans la version, encore une fois, non expurgée. Et effectivement, dedans, il explique que les SS, les gardiens du camp leur avaient donné aux prisonniers le choix, ou bien c'était, comme tu l'as dit, la liberté soviétique, ou bien c'était le camp en retrait à 300 ou 350 km de là, quelque chose comme ça. Et ils ont choisi, ils ont préféré suivre les SS, comme le dit l'auteur que tu cites, la Cohen.
Eh oui. Mais Kryska, donc la crapule juive qui a finalement crevé, a passé sa vie à raconter à quel point il avait souffert, etc. Donc c'est pour vous dire à quel point ces Juifs sont des menteurs, des crapules, des escrocs.
Des pourritures, on peut le dire.
Bah, comme Salomon, Buzyn et Lévi, d'ailleurs.
Mais tu dis, mon copain...
Et Dreyfus.
Certes, il a les papiers, mais si tu as vu la photographie du père et du fils, tu t'apercevras que le père,
ah oui,
mon patriote... Il ne s'est pas mélangé avec une Belge ou une Celte ou une Gauloise ou tout ce que tu veux. Hein.
Ah non,
sûrement pas.
Il a une gueule d'Algérien, il a un nez qui est incroyable. Hein. C'est
ça.
Donc voilà, donc bon, il fallait le dire. Il fallait le dire.
Je vais juste saluer un camarade, donc un bouddhiste sûr de lui-même et dominateur, je ne fais que citer, d'accord.
C'est qui?
Qui apparemment, il nous aime bien, donc moi je tenais à lui dire que on l'aime bien aussi.
Ah, mais c'est très flou, on ne sait pas qui c'est exactement.
Bah, c'est le but, mais je
ne
l'ai pas cité.
Bon, dommage. Un bouddhiste.
T'as
pas un indice supplémentaire? Pour qu'ils se reconnaissent vraiment, ils disent ouais, c'est vraiment moi.
Ah, bah, ils se reconnaîtront,
ouais,
c'est sûr. Hein.
Bon,
oui,
ils
oui, c'est certain.
Bon, bah, d'accord, ok, très bien. Alors,
oui.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.